Bonjour à toutes et à tous, parce qu'on a quelques hommes dans l'assistance. Donc voilà, on part déjà avec 20 minutes de retard, donc ça va être la course, le programme est chargé. Donc je suis ravie de vous accueillir de nouveau donc, à l'espace Mendès France. Je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Didier Moreau, notre directeur qui est en déplacement à l'extérieur de Poitiers. Et donc, cette année, je vais dire quelques mots à sa place, donc je le fais moins bien, mais bon, je vais essayer. Donc, l'Espace Mendès France, c'est une association, loi 1901. C'est également un centre de culture scientifique, technique et industrielle en Nouvelle-Aquitaine. Il existe 3 autres centres, un situé à Bordeaux, Cap Science, un situé à Limoges, Récréascience, et un situé à Mourinx, Lac Odyssée. Voilà, donc ces 4 centres avec la nouvelle région se sont réunis pour former donc un consortium donc pour diffuser la culture scientifique sur ce territoire donc de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, donc l'Espace Mendès France, c'est 70 000 visiteurs par an ici intramuros, mais à travers nos opérations régionales comme la Fête de la Science se livre et Images de Science, donc des opérations qui sont labellisées, on accueille donc en région à l'Espace Mendès France au total 180 000 personnes. Voilà. Donc, il y a beaucoup de têtes que je connais dans l'assistance. Donc, merci à toutes et à tous de contribuer justement à la diffusion de la culture scientifique sur le territoire, comme vous le faites. Et j'espère que ça va continuer encore de nombreuses années. La science se livre a bientôt 20 ans. Et oui, bientôt 20 ans que la science se livre existe. Et nous sommes toujours... Donc, c'est une idée qui est née dans les Hauts-de-Seine. Ils ont eu cette volonté de diffuser les sciences auprès des bibliothèques. Et donc, on est toujours en relation avec eux pour le choix du thème. Et donc, en 2020, le choix du thème, c'est sur la santé des végétaux, enfin les végétaux plus exactement, dans le cadre de l'année internationale de l'ONU sur les santé des végétaux. Donc, les végétaux, c'est un très, très beau thème. Et comme chaque fois, pour lancer la science se livre, on fait cette journée de formation, d'information, de sensibilisation pour vous donner envie ensuite de faire des actions dans votre établissement. Donc, je voulais remercier Bruno Isservidaille, qui est à côté de moi, de l'ALCA, qui nous suit depuis aussi de nombreuses années, peut-être pas 20 ans, mais de nombreuses années, pour donc mettre en place cette journée et puis réaliser les belles bibliographies et nous aider donc dans la composition des interventions. Donc, merci à lui pour son aide. Et puis, je profite aussi dans les remerciements, mais je remercie l'ensemble des intervenants qui ont répondu à notre invitation. Donc, un grand, grand merci. Je remercie aussi Véronique Gauduchon, la bibliothèque de la librairie La Bruyère Vagabonde, qui va venir nous rejoindre. Donc, il y aura un peu plus tard un stand d'ouvrages. Et puis, elle intervient cet après-midi pour nous présenter quelques ouvrages avec Bruno. Et puis, merci à ma collègue Ladjiak, au fond de la salle, qui aussi nous suit dans cette opération en préparant des magnifiques dossiers, en faisant des recherches pour les ressources. Donc, voilà, je commence par les remerciements. J'espère que vous allez passer tous une bonne journée. Je vais donc essayer de rattraper mon retard. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Louis Scherrer, donc qui... Jean-Pierre, voilà, déjà je commence, Jean-Pierre Scherrer, pardon, et qui donc est responsable des formations plantes aromatiques et médicinales à la MFR de Chauvigny. Et également, il fait plein de choses, il va jusqu'à Barcelone, il m'a dit tout à l'heure, mais également, il fait des formations donc à Venours pour des adultes. Donc aujourd'hui, il peut parler de plein de choses, je lui ai demandé d'être bref, ça va être très très dur, mais il va nous parler donc des plantes médicinales, de leur histoire, de voilà. Donc, je lui laisse tout de suite la parole. Donc, 30 minutes, l'exercice est dur. Et après, questions-réponses. Et on enchaîne, on enchaîne. Bon courage et à bientôt.
Merci. C'est pas que l'exercice est dur, c'est qu'il est impossible. Bonjour à tous, hein, à toutes. Donc, nous avons une demi-heure. Je vous dis tout de suite, hein, il y aura frustration. Frustration pour moi, mais peut-être aussi pour vous, parce que j'interromprai, l'ensemble peut durer une heure et quart. Et moi, je pensais que j'aurais 3/4 d'heure aujourd'hui, donc ça sera plus court. Et surtout, puisqu'il est question de botanique, il est question de s'intéresser aux plantes, notamment pour l'année à venir. La botanique, c'est une discipline qui peut être passionnante, mais qui peut aussi être rébarbative. Indigeste si elle ne se borne qu'à mettre un nom sur une plante et la classifier ordre, famille, genre, espèce. En fait, l'idée hein, de notre propos, c'est de donner du sens à cette botanique en pensant que l'être humain a nommé les plantes Et il y a eu une relation surtout utilitaire avec le monde végétal. Utilitaire, c'est-à-dire reconnaître une plante, la nommer, parce que la première utilisation, c'était de s'en nourrir, ne pas s'empoisonner, et puis la seconde fut de se soigner. Et donc le propos sera sur l'histoire d'utilisation des plantes médicinales, et plutôt ce propos sera une enquête qui essaie de répondre à cette question. Mais au fait, si on parle de médicinale pour une plante, comment sait-on qu'elle est médicinale ? Et vous répondez à quoi ? Vous répondez comment à cette question ? Comment on le sait ? L'usage ? Transmission ? Bien sûr. L'observation ? Animaux, vous dites ? Des animaux. Alors, on pourrait dire, nous sommes nous-mêmes du règne animal, et la question première sera, au fait, ça a commencé quand, cette histoire ? Et donc, est-ce que les animaux eux-mêmes se soignent par les plantes ? Vous dites oui. Quelques exemples. Premier exemple, effectivement, vous citez les chimpanzés. Je vous cite, hein, c'est une étude universitaire réalisée par une étudiante américaine sur un parc national en Ouganda et qui avait fait l'étude du comportement alimentaire de chimpanzés dans le parc national du Kibale et avait observé que les chimpanzés utilisaient 125 plantes différentes. Et parmi celles-ci, certaines n'étaient pas alimentaires pour les populations humaines. Et regardez, ce chimpanzé est en train de mâchouiller. Ce n'est pas une branche, c'est la moelle d'un arbuste. Cet arbuste, c'est le Vernonia amygdalina. Alors, c'est un nom latin. Cette plante n'a pas de nom vernaculaire en français. C'est un arbuste. Et en fait, la consommation de la moelle est aussi une pratique humaine, mais une pratique humaine qui correspond à quelque chose de médicinal, et en particulier quelque chose qui va assainir les parasites intestinaux chez les animaux, êtres humains ou chimpanzés. En fait, la moelle de cet arbuste est terriblement, terriblement amère. Terriblement amère, ce qui veut dire qu'on ne la consomme pas par plaisir. Autre chose, c'est que la moelle de cet arbuste n'est consommée qu'à deux moments de l'année par les chimpanzés, à deux moments de l'année où on voit les chimpanzés, surtout les guenons, couper les branches, éplucher les branches pour accéder à la moelle et le montrer au petit singe pour lui transmettre l'information. C'est devant le petit singe que c'est fait, donc il y a comme une transmission d'information. Et la chose étonnante, c'est que la consommation de la moelle de cet arbuste est exactement synchronisée avec les moments de développement des parasites intestinaux. Donc, un curieux hasard, c'est que c'est juste à ce moment-là que les chimpanzés le consomment, de là à penser qu'il y a quelque chose de cohérent et penser que ça fait partie de la pharmacopée des populations humaines qui vivent sur le même territoire. Je vous cite un autre exemple. C'est une étude qui a été publiée par l'ITCF, l'Institut technique des céréales et des fourrages, qui a observé le comportement alimentaire des chèvres sur du parcours libre. C'est-à-dire les chèvres avaient tout le choix, pas du tout sur une prairie, mais avec de la plante sauvage. Et seuls les chèvres atteintes de mammite consommaient, c'est la plante qui pousse chez nous, hein, l'épervir pilosèle, que vous pouvez voir en général sur les milieux où il n'y a pas très épais de terre. C'est une plante qui va pousser en touffe, facile à reconnaître hein, parce que, comme son nom l'indique, pilosèle, hein, elle est très poilue. Une petite tige avec un petit pompon jaune comme un pissenlit. Et seules, je vous disais, les chèvres atteintes de mammite vont consommer cette plante, les autres vont passer devant sans la manger. Il se trouve que quand on regarde dans les livres de plantes médicinales, la pilosèle est une plante antibactérienne. Or, les mammites sont des maladies liées aux bactéries. Curieux hasard. Autre exemple, cité par la Ligue de protection des oiseaux, qui avait fait une étude floristique de la composition des nids de passereaux. Alors, on va se dire, oui, l'oiseau, il a sa façon de construire un nid. On peut imaginer qu'il a pris ce qu'il avait, j'allais dire, sous la main au niveau végétation. Et qu'il a construit son nid de cette façon-là. En réalité, il s'est avéré que dans toute la France, avec différentes études de la composition floristique, il y avait une densité anormalement élevée de trois plantes. La lavande, l'hélichryse et l'achillée. Je vous les montre, hein, c'est le petit prétexte botanique. Donc la lavande que tout le monde connaît. L'hélichryse, qu'on appelle aussi l'immortelle d'Italie, et l'achillée millefeuille. Le point commun de ces trois plantes, dont je vous rappelle que la composition est anormalement élevée dans le nid, c'est-à-dire que s'il y a un peu de ces plantes-là, il y aura beaucoup dans les nids. Et bien leur point commun, c'est que d'abord, ce sont des plantes médicinales, on y reviendra, mais que lorsque ces plantes sont sèches, elles vont exhaler des arômes qui, par inhalation, vont protéger les oisillons de la coccidiose. C'est-à-dire comme si l'oiseau déjà faisait une action de prévention pour protéger les oisillons avec des plantes. Et le petit oiseau, quand il va percer son nid pour éclore, eh bien, va respirer ça et ce qui va le protéger. Curieux hasard. Alors bien sûr, on va se dire, mais ça, on parle d'animaux sauvages, à part la chèvre. Est-ce que on va le retrouver aussi chez l'animal domestique ? Alors, un exemple, vous connaissez cette plante, au moins de nom, au moins de réputation. Très mauvaise réputation, hein, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir empoisonné Socrate. Accusée d'avoir perverti la jeunesse. En réalité, l'agonie de Socrate ne correspond pas vraiment à une intoxication à cette plante-là. Sans doute qu'il y avait un mélange de plantes, dont cette plante, mais pas seulement. La ciguë n'est pas aussi agressive. C'est une plante qui peut pousser chez nous, hein, dans le centre-ouest. Et la grande ciguë, bah, les animaux n'y toucheront pas. De la ciguë peut pousser dans une prairie, les animaux n'y touchent pas. Mais la ciguë peut être consommée. Il y a eu des cas signalés de consommation de ciguë par des chevaux, d'une ciguë qui avait été préalablement traitée avec des herbicides de synthèse, de la famille des phytohormones de synthèse, et la plante, normalement non accessible à l'animal, est devenue appétante, l'animal l'a mangée et en est mort. Ce qui veut dire qu'il y aurait comme un message chimique dans la plante, atténué par le traitement herbicide, qui fait que la plante est devenue accessible à l'animal. On est sur un animal domestique. Autre exemple, la mercuriale, qui est une plante très banale dans les champs de céréales et sur les bords par chez nous. Si vous êtes de la région, les gens appellent ça de la Roberte dans la campagne. Et la mercuriale est aussi une plante toxique. Plante toxique, il suffit de 30 grammes pour tuer un lapin, sauf que les lapins de Garenne n'y toucheront pas. Par contre, cette même mercuriale ramassée dans un mélange d'herbes et administrée à des lapins de clapier, eh bien, le lapin va le manger et en mourir. Ce qui veut dire qu'il y aurait comme un instinct chez l'animal sauvage atténué par la domestication qui fait que l'animal sauvage ne touchera pas la mercuriale, l'animal de clapier, lui, y touchera, comme s'il y avait une atténuation. Un petit peu comme si on se disait, mais nous sommes des êtres humains plus ou moins urbanisés, civilisés, et qu'il y aurait comme une atténuation de notre perception de notre environnement, et en particulier végétal. Alors là, on parle d'animaux. Comment cette information a-t-elle été transmise à l'être humain ? Un exemple, c'est une étude archéologique réalisée sur un site sur l'actuel territoire de l'Irak, un site occupé par des Néandertaliens à peu près 30 000 ans avant Jésus-Christ. Et sur ce site a été étudiée différentes choses, et en particulier une présence anormalement élevée du pollen de trois espèces. Ces trois espèces, sont des plantes qui peuvent nous être familières, hein. La rose trémière, le mot trémière est une déformation de outre-mer. Ce n'est pas une rose, hein, c'est plutôt une mauve. Et mauve d'outre-mer, eh bien, outre-mer a été transformé en trémière. Le mot outre-mer voulait dire de l'autre côté de la Méditerranée. Rose trémière, la centaurée, étymologiquement du centaure Chiron, et l'aquilée millefeuille dont on a déjà parlé. Donc, on est sur un site d'occupation de plusieurs siècles, voire milliers d'années de Néandertaliens. Et sur le site, il y a du pollen, une quantité anormalement élevée de ces trois plantes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ces trois plantes ont convergé vers le campement, ont sans doute été ramassées et sont venues vers le campement. Autre point commun de ces plantes, ce ne sont pas des plantes alimentaires. Bien sûr, elles ne sont pas toxiques, mais on ne s'alimente pas avec ces plantes-là. Donc si on ne s'alimente pas, qu'est-ce qu'on en fait ? Bah, probablement que c'était pour un effet médicinal. Aujourd'hui, vous trouvez ces plantes dans les livres de phytothérapie avec l'information de la rose trémière pour des vertus surtout digestives. La centaurée est reconnue d'abord pour ses propriétés fibrifuges qui fait baisser la fièvre. Et l'aquilée millefeuille, puissante hémostatique et cicatrisante. Aquilée, étymologiquement, Achille, c'est Achille de la guerre de Troie, c'est l'invulnérable. Et effectivement, aujourd'hui, hein, l'aquilée millefeuille est une plante qui est puissamment hémostatique et aide à la cicatrisation. Conclusion des archéologues, il y a une forte probabilité pour que les trois problèmes sanitaires que pouvaient connaître les Néandertaliens étaient des problèmes de digestion avec la consommation de produits plus ou moins bien conservés, des fièvres liées à des problèmes climatiques et puis des blessures hautement probables et donc un fort soupçon que l'être humain à l'époque néandertale utilisait aussi les plantes d'une façon cohérente et les mêmes utilisations qu'on peut faire aujourd'hui. Alors l'être humain tout doucement se civilise et pensait que quand on parle de plantes médicinales, il faut penser aussi que la maladie a aussi été perçue comme quelque chose lié à la religion, à la spiritualité, à un mauvais sort et la guérison comme une intervention divine. Et au cours de l'histoire, et cette conférence vise à vous inviter à une vision historique jusqu'à nos jours, mais une relecture de l'histoire vis-à-vis des plantes, au travers des plantes, et pas seulement au travers des règnes et des batailles. La plante, une des plantes les plus anciennes utilisées dans nos contrées, est le millepertuis. Le millepertuis, vous le connaissez, hein, c'est une plante qui va fleurir au mois de juin. Et j'attire votre attention toujours sur le nom et son origine, millepertuis. Un pertuis, c'est un trou. Effectivement, si je doute que c'est bien cette plante-là, je la regarde à contre-jour et je verrai des choses qui ressemblent à des petits trous, qui sont en fait des vacuoles qui contiennent les principes actifs. Son nom latin, hypericum. Hyper, en grec, ça veut dire au-dessus. Icône, c'est l'icône. Elle s'appelle au-dessus de la représentation divine. Ça veut dire que, effectivement, aux époques antiques, cette plante était dessinée, stylisée, au-dessus de représentations divines, aux époques polythéistes. Et pourquoi ? Parce qu'on lui attribuait tellement de propriétés, perforantum, comme on dit, millepertuis perforé, on lui attribuait tellement de propriétés, et bien que forcément, cette plante était envoyée par les divinités. C'est une énergie qui va occasionner des maladies. On n'a aucune idée de parasites, de virus, de bactéries. Et donc, c'est une énergie qui va guérir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il suffit de porter cette plante pour éloigner le mauvais sort. C'est une plante qui s'est appelée herbe de Saint-Jean. Vous connaissez l'expression herbe de Saint-Jean, c'est-à-dire qui fleurit au mois de juin. Et au mois de juin, c'est le moment où la lumière est la plus haute. Et quand elle est la plus haute, forcément, c'est le domaine des divinités qui sont probablement dans l'atmosphère. Herbe de Saint-Jean, d'autres plantes se sont appelées herbe de Saint-Jean, ça dépendait des régions. Alors en fait, 70 plantes se sont appelées herbe de Saint-Jean. Ce fut l'armoise, ce fut le fenouil, point commun, des floraisons plutôt printanières. Alors, herbe de Saint-Jean, sachez que la fête de la Saint-Jean a été jour chômé jusqu'en 1802, c'est-à-dire c'était vraiment quelque chose où on accueillait les divinités et puis ensuite qui s'est atténué avec la civilisation. Ça veut dire, en gros, qu'il suffisait de porter cette plante pour se soigner. Le millepertuis est plutôt connu pour des vertus apaisantes du système nerveux. Et puis, la civilisation aidant, là, toujours la question, mais comment sait-on qu'une plante est médicinale ? Comment est-ce qu'on va mener notre enquête ? Eh bien, quand on n'a plus cette perception un petit peu instinctive qu'il y avait au départ, eh bien, on va transmettre d'une façon écrite. Le papyrus d'Ebers, on dit Ebers parce qu'il a été trouvé par une expédition allemande après la Seconde Guerre mondiale. Et ce papyrus, comme vous pouvez le lire, contient des noms de plantes médicinales, n'est-ce pas ? Alors pour ceux qui sont un peu... Non ? C'est pas clair ? Alors si c'est pas clair, je vous fais une traduction. C'est jamais... Alors sur ces plantes, voilà, sur le document qui figure, eh bien, pas mal de plantes. Et parmi ces plantes, des plantes qui sont très communes aujourd'hui et qui vont être traduites des fois simplement à l'état d'épices, à l'état d'aromates et d'autres qui sont purement médicinales. Donc ça veut dire que oui, comment sait-on qu'une plante est médicinale ? Eh bien, on va transmettre l'information par voie écrite. Ce qui veut dire, eh bien, que on n'apprend pas grand-chose. La civilisation égyptienne était utilisatrice de plantes médicinales, mais quand on étudie la phytothérapie égyptienne, on se rend compte qu'on était beaucoup basé sur de la prévention, c'est-à-dire pas du curatif, mais qu'est-ce qui pourrait aider le système, le métabolisme humain à prévenir les maladies et parasites. Bien sûr, c'est l'Égypte. Autre illustration, on est à peu près contemporain parce que le document qui précède, sachez que ce n'est pas un document originel, que c'est probablement une copie de documents encore plus anciens. On l'a trouvé, il datait de 1500 avant Jésus-Christ, tablettes sumériennes sur lesquelles, en écriture cunéiforme, figurent aussi des plantes médicinales, à peu près les mêmes que les Égyptiens, un petit peu différentes. Ils vont en citer deux autres qui nous sont familières. La belladone, que vous allez retrouver en homéopathie sous le remède belladonna, et puis qui est une plante connue aussi pour sa toxicité, franche toxicité. Et puis le chanvre. J'ai mis chanvre indien. Hein. Sativa veut dire cultiver, indica. Chanvre indien qui était connu pour ses propriétés, bien sûr, psychoactives. Et donc qui en sont cités sur les tablettes sumériennes. Tout doucement, on entre dans la civilisation, donc on sait que des plantes soignent. Autre moyen de le savoir, eh bien, c'est de l'administrer d'une façon cohérente. Rapidement, le personnage d'Hippocrate, il est connu. Hein, simplement se resituer dans l'histoire. Et Hippocrate, qu'est-ce qu'il va apporter ? Au travers de documents qu'il a pu laisser, Corpus Hippocraticum, qui est un document en 60 tomes, dont peut-être 5 ou 6 auraient été écrits de son vivant et tous les autres par ses disciples. Et sur ces 70 tomes, 230 plantes sont citées. Ça veut dire que l'information, cette fois, elle est transmise. Et surtout, l'originalité, c'est qu'il est proposé une méthode d'observation clinique, l'hypothèse selon laquelle la maladie pourrait être associée à quelque chose et non pas à un châtiment. Ce quelque chose pouvant être l'eau, l'air, l'aliment. Et donc, une proposition selon laquelle on va interroger le patient pour essayer de déduire la raison de la maladie et d'administrer des remèdes à base de plantes de manière à obtenir la santé. Cette désacralisation de la guérison, ça veut dire qu'on n'est plus dans un domaine uniquement spirituel et religieux, mais quelque chose qui se veut plus pragmatique. On est à l'époque fin de l'Antiquité, début de l'ère chrétienne, et l'être humain va se mettre à chercher ce qu'on appelle la panacée. Panacée, vous connaissez le terme. Là, vous voyez qu'il est écrit avec une majuscule. Panacée, c'est un personnage de la mythologie romaine. Panacée, c'était la fille de Esculape, Esculapios chez les Grecs. Esculape, c'était le dieu de la guérison. Dieu qui avait comme mission de soigner l'humanité. Et forcément, ce dieu avait une sacrée mission et ce dieu avait des enfants. Il avait notamment deux filles, une qui s'appelait Panacée. Et ses filles, étant bienveillantes pour leur papa, se sont dit comment on peut soulager la mission de notre père. Et bien, Panacée, c'était recherche du remède universel. Son autre sœur s'est appelée Hygie, H-Y-G-I-E, qui a donné hygiène. Hygiène, c'est-à-dire prévention des maladies. Donc d'un côté, le remède universel, de l'autre côté, prévention des maladies. Dans les deux cas, si on arrive à trouver ce qu'il faut, eh bien forcément, on soulagera la mission de soigner l'humanité. Et cette recherche de la panacée, qui va perdurer pendant des siècles, va commencer avec un personnage. D'abord, vous le retrouvez dans l'étymologie de certaines plantes. Hein, la sauge officinale que vous connaissez, salvia, celle qui sauve. Effectivement, cette plante s'appelle celle qui sauve. Dioscoride disait... Comment peux-tu mourir, toi, qui as de la sauge dans ton jardin ? C'est-à-dire, c'est la plante forcément universelle qui va tout sauver. Et la chose amusante, c'est qu'au cours des siècles, au cours de l'histoire, plusieurs plantes ont été la panacée, ont été starisées. Et j'ai vu des fois, et je m'adresse au jardin botanique universitaire, où les plantes sont classées par indication thérapeutique, et il y a aussi le jardin des panacées. Des plantes qui, à certaines époques, furent des stars dans lesquelles on attribuait toutes les propriétés, et ça a pu évoluer. C'est intéressant. Quand ce n'était pas une plante, on a tous cette image plus ou moins passée sous nos yeux. Effectivement, l'image de Panoramix qui va cueillir du gui, eh bien, Goscinny il s'est documenté pour ses livres. Et effectivement, le gui était considéré comme une panacée chez les Gaulois. Pas n'importe quel gui, le gui de chêne, sauf qu'il n'y a pas souvent du gui sur du chêne. Le gui médicinal qui est utilisé aujourd'hui comme hypotenseur et utilisé aussi pour des soins, des médicaments liés aux soins du cancer, c'est le gui de pommier, le gui de peuplier, mais pas les autres guis. Alors, chaque civilisation a eu sa panacée. On n'aura pas le temps de les déployer juste pendant notre propos. Et un personnage va apparaître, Mithridate. Mithridate VI était un roi d'un royaume du Pont. Le Pont, c'est un royaume situé à l'est de l'actuelle Turquie. Et Mithridate était en guerre contre les légions romaines. Forcément, il était en infériorité numérique par rapport aux Romains. Et au cours d'une bataille navale qui l'opposait aux galères romaines, Il a eu l'idée d'inventer la première arme biologique de l'histoire. La première arme biologique, c'est-à-dire qu'il a enfermé des vipères dans des amphores avec l'idée de catapulter ces amphores sur les bateaux ennemis avec l'espoir que ces amphores éclateraient et libéreraient les vipères aux morsures mortelles sur les marins et les soldats ennemis. L'histoire ne dit pas si, effectivement, la bataille a été gagnée. Mitrédate était connu pour autre chose, c'est que il se méfiait de tout le monde, et comme il se méfiait de tout le monde, pour éliminer les éventuels ennemis, il utilisait des poisons, c'est-à-dire des plantes. Et comme il avait lui-même peur d'être empoisonné par ces mêmes poisons, eh bien, il avait eu l'idée de s'administrer lui-même des petites quantités de ces poisons pour s'immuniser contre ces mêmes poisons. Ça donnait un verbe qui est dans le dictionnaire aujourd'hui, mitridatiser, qui n'est pas facile à glisser dans une conversation, mais qui existe et qui veut dire consommer des petites quantités de poison pour s'immuniser contre ces mêmes poisons. Et forcément, de retour à Rome, eh bien, les empereurs qui se sont succédés se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire contre morsure de vipère? Il faut trouver un remède. Et le médecin de Néron, qui s'appelait Andromachus, a eu l'idée, eh bien, comme on ne sait pas trop comment guérir ça, on va faire une préparation. Une préparation complexe dans laquelle on va commencer par mettre de la chair de vipère, le semblable soigne le semblable, et puis on va mettre des plantes, un mélange de plantes les plus usuelles pour l'époque, et on va mettre tout ça dans un mélange. Ce mélange est appelé la thériaque, thériakos voulant dire étymologiquement efficace contre les venins. Voilà. Et regardez, ces vases sont du XVIIIe siècle, ça veut dire que pendant 2000 ans, on va utiliser des thériaques. Vous voyez que les thériaques étaient réalisées ici toujours en public à partir du XVIIe siècle. Et la thériaque, c'était quoi? C'était un mélange de plantes. Alors vous retrouvez à nouveau des plantes qui nous sont souvent familières. Là-dedans, vous pouvez voir aussi que tout n'est pas d'origine animale. Il y avait du castoreum. Certaines plantes ont été transformées en plantes purement ornementales. D'autres ne sont que des aromates ou des épices, mais un mélange de plantes médicinales. Simplement quelques exemples. Sachez que la thériaque contenait entre 70 et 110 espèces différentes. On en reparlera. Et il y avait du miel. Le miel, c'est-à-dire que la thériaque, c'était un électuaire. Un électuaire, c'est un mélange de plantes sèches avec du miel. Il n'y avait pas de comprimé. C'était pas du sirop, c'était un mélange qui supposait aussi une fermentation qui pouvait durer jusqu'à 18 mois et la réalisation devait être en public. Sachez qu'il y avait un prestige à la réalisation de la thériaque et vous comprenez que quelque chose dans la préparation dure 18 mois avec un mélange aussi complexe n'était pas accessible au commun des mortels. Il était réservé à une élite sociale, à la noblesse, une élite économique et donc forcément des médecines tout doucement vont évoluer. D'une part, la médecine empirique avec la plante simple et d'autre part, des préparations plus élaborées. Ça n'était supprimé qu'au 19e. Ça veut dire pendant 2000 ans, thériaque a été une référence. Alors, simplement, dans les personnages, je vous ai cité Dioscoride tout à l'heure. Dioscoride, on est toujours, je vous rappelle, dans la question, mais comment sait-on qu'une plante est médicinale? Eh bien, il y a un personnage, Dioscoride, qui était médecin des légions romaines. Quand on est médecin des légions romaines, qu'est-ce qu'on fait? On a forcément la mission de soigner, pas forcément tous les soldats, mais au moins les officiers. Et puis on voyage. On voyage au rythme des conquêtes romaines. Et dans ce voyage, on est confronté à des maladies, des symptômes qu'on ne connaît pas toujours, des blessures à soigner. Et puis surtout, on rencontre d'autres peuples. On va visiter des biotopes différents. On va découvrir des plantes différentes. Et on va en faire la synthèse de plein d'informations qu'on va glaner à droite à gauche au gré des conquêtes romaines, des nouvelles plantes, des nouvelles pratiques. Et on va les synthétiser en les ramenant à Rome. Dioscoride était un grec qui œuvrait aussi auprès des empereurs romains. Il a pu laisser le document De Materia Medica dans lequel plus de 500 préparations à partir de plantes ont été laissées. Donc on apprend les plantes médicinales par la rencontre, par une forme de métissage culturel qui permet d'aller voir d'autres pratiques avec des plantes qu'éventuellement on ne connaît pas, plus ou moins domesticables. Vous connaissez le personnage galien qui a donné le nom de préparation galénique. Claude Galien, lui, il était grec comme Dioscoride. Il était médecin à Rome, et en particulier, il œuvrait auprès des empereurs romains. Les empereurs romains, c'est l'époque de Marc Aurel, de son successeur Commode, et son successeur, je ne me souviens plus comment il s'est appelé, Commode ayant régné pas très longtemps. Et il était médecin aussi des gladiateurs. Alors c'est chouette quand on est médecin des gladiateurs, parce qu'on est amené à soigner des gens qui sont de toute façon appelés à mourir. Ça permet de tester. Aux époques où les dissections sont interdites, ça permet d'expérimenter. Et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bah, c'est, de toute façon, c'est tant pis. Ce sont des gens qui sont régulièrement blessés. Et donc ça permet d'expérimenter. Et puis ensuite, une fois que le médicament ou le remède a fait référence, ça permet de l'administrer auprès des empereurs. Claude Galien avait en particulier sa thériaque avec 70 composantes. Et ça donnait le mot préparation galénique, ce qu'on retrouve en pharmacie aujourd'hui. Préparation galénique, c'est-à-dire quelque chose avec un mélange de substances naturelles, mais dont on ignore la composition chimique, c'est-à-dire quand on achète un médicament aujourd'hui, c'est souvent le cas, on ne connaît pas forcément la composition, même si c'est marqué dessus. Des fois, la plante va être réduite à un nom latin qui correspond au principe actif présent dans la plante, mais la pharmacie d'aujourd'hui propose surtout des préparations galéniques. Pour résumer aussi sur Claude Galien, il a proposé aussi l'idée selon laquelle une conjonction de plusieurs humeurs, il appelait ça humeur, était responsable de la maladie, et que pour guérir, il fallait contrer ces humeurs, c'est-à-dire quelque chose qui va aller à l'encontre de la maladie, d'où le mot anti, quelque chose, antibiotique, on s'oppose à. Et c'est l'état d'esprit qui a fait référence chez Claude Galien. On avance dans l'histoire, et dans les plantes emblématiques de Claude Galien, je vous en cite simplement quelques-unes. Là, elle n'est pas facile à identifier. Là, peut-être un petit peu plus. Et chaque médecin avait vraiment ses spécialités. Dioscoride, on a parlé, c'était la sauge. Claude Galien, bah, ce fut le poivre, tout simplement. Ça a été le réfort et ça a été le ricin. Des plantes qui nous sont familières aujourd'hui, hein, mais qu'on ne consomme pas forcément pour des raisons médicinales, mais qui étaient les stars de chez Claude Galien. On avance dans l'histoire, 4 septembre 476, chute de l'Empire romain. Tout ce qui se construit depuis Babylone, depuis l'Égypte, la Grèce, Rome, eh bien tout va se retrouver perturbé par la chute de l'Empire romain, les invasions barbares et les savoirs acquis jusque-là vont se réfugier dans les monastères. La religion chrétienne faisant référence à partir de là. Et dans les monastères, eh bien, on va conserver, on va sauver toutes ces informations, tous ces documents. On va les sauver en les recopiant. Avantage, l'information va se maintenir. Inconvénient, oui, mais quand on recopie, on peut faire des fautes. On peut faire des fautes et une faute transmise peut modifier le nom de la plante, modifier l'usage. Autre inconvénient, bah, on ne recherche pas. On ne fait pas de progrès puisqu'on garde les savoirs. Dioscoride a dit, Galien a dit, ce fut référence pendant plus de 1000 ans, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et à côté de ça, eh bien, il va y avoir une médecine non accessible aux lettrés qui va se développer dans les campagnes, qui fait que là où on n'a pas accès à ce savoir, là où on n'a pas les moyens de se payer un médecin, un pharmacien de médicaments, eh bien, il va y avoir un savoir empirique qui va se développer sur l'utilisation des plantes qu'on va retrouver dans les étymologies d'aujourd'hui. Alors, ça s'est traduit hein, par le jardin de curé. Le jardin de curé, il y avait forcément un peu de légumes. Il y avait la vigne pour le vin de messe. Il y avait les fleurs pour l'autel et des plantes médicinales. Et chaque curé devait avoir un ensemble de plantes médicinales pour pouvoir soigner. Dans ces jardins de curé, on trouvait la trousse de secours avec des végétaux de base pour les différentes pathologies possibles. Ne figurait pas... Alors, dans les jardins de curé, vous voyez, on a l'image du jardin d'Éden. Là, on a des plantes dont on va reparler. Voilà. Et jardin de curé, c'est typiquement hein, quelque chose qui a un objet médicinal. Et je vous rappelle la question, mais comment sait-on qu'une plante est médicinale ? Bah, on le sait parce qu'éventuellement, on va les trouver dans le jardin de curé. Ne figurait pas cette plante, la sarriette, qui est une plante qu'on utilise, qui est peut-être dans vos jardins, très très intéressante pour ses côtés antiseptiques et digestives. Mais le mot Satureia montana, bah, c'est la même étymologie que le satyre. Et forcément, cette plante avec une réputation aphrodisiaque n'était pas la bienvenue dans un jardin de curé, imaginez. On avance dans l'histoire, arrive Mahomet. La nouvelle religion, l'islam, et qui va se traduire par de la conquête de territoires pour convertir à cette nouvelle religion. Et dans cette nouvelle religion, qu'est-ce qui va se passer ? Quelques siècles après Dioscoride, on va à nouveau suivre les conquêtes. En suivant ces conquêtes, on va rencontrer de nouveaux peuples. Et ces peuples ont de nouvelles pratiques. On va rencontrer à nouveau des biotopes. Et le monde arabe va aller jusqu'aux confins de l'Himalaya, rencontrer des peuples, et notamment même des peuples mongols, et dans lesquels il va y avoir transmission d'informations pour savoir voilà ce qui soigne. Et donc une nouvelle richesse médicinale va apparaître avec deux personnages en particulier. Avicenne, c'est le nom d'un hôpital sur Paris aujourd'hui, document qu'il a laissé, le canon de la médecine. Et dans ces documents, il propose une synthèse. Alors, à partir de documents traduits en arabe, d'origine latine, d'origine grecque, d'origine perse, voire même d'origine mongole. Donc imaginez hein, la synthèse et la richesse d'informations qu'il pouvait y avoir. Un peu plus tard, Al-Baytar, qui a publié le Traité des Simples, qu'on appelait aussi le médecin andalou, hein, puisque cette statue est à Séville, parce que forcément, à l'époque, les Arabes étaient encore sur l'Espagne, avec un document, le Traité des Simples. Donc, comment sait-on qu'une plante est médicinale ? Eh bien, on accède à des documents. Il suffit de les aborder, de les lire. Et les Arabes vont en particulier mettre en avant une plante, le houblon, qui était plus ou moins connu plus pour des usages digestifs, mais relativement oublié, et qui va être utilisé par les chrétiens pour d'autres usages que uniquement le côté digestif et le côté apaisant du système nerveux, pour mettre dans la bière, mais ça c'est l'objet d'une autre intervention sur les plantes qui se boivent, et qui vont remplacer le mélange de plantes qui était utilisé jusque-là. C'est ce qui fait que la cervoise va être remplacée par la bière, cervoise de Cérès, qui était la déesse des moissons. J'ai encore le temps, Madame Guiton ? Où êtes-vous ? Oui ? Alors, vous pouvez vous permettre, je termine juste. Je termine par là, on rentre dans le Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, j'ai publié un document, Capitulaire de Vilis. Capitulaire comme chapitre, c'est un document administratif. Vilis comme villa, c'est-à-dire un domaine seigneurial. On est dans l'époque médiévale, et dans ce domaine-là, on est à l'époque de Charlemagne. Et Charlemagne a fait publier un document administratif obligatoire destiné au seigneur. Et chaque seigneur devait avoir sur son territoire un ensemble de plantes pour soigner les gens qui vivaient sur ce même domaine, souvent domaine agricole. Alors c'est écrit en vieux latin. Et les plantes du capitulaire de Vilis, 72 plantes, 16 arbres, des textiles, des tinctoriales et des médicinales. Les jardins médicinaux d'aujourd'hui s'inspirent de ce document. C'est le document le plus ancien qu'on ait en Europe occidentale de plantes dont il était obligatoire d'avoir la possession pour pouvoir soigner les gens qui vivaient. On retrouve des plantes qui nous sont familières, on les a déjà citées. Et curieusement, il y avait la joubarbe des toits, une plante que vous connaissez, ce sera la dernière illustration. Vous la connaissez, hein, souvent on la voit dans des plantes de rocaille. Elle est comestible, elle est plutôt sympa parce qu'elle pousse sur les rochers, peu ou pas d'entretien, mais simplement son nom, joubarbe des toits, Jovis barba. Jovis barba, c'est la barbe de Jupiter. Jupiter, c'est la foudre. Ça veut dire qu'il était obligatoire de posséder de la joubarbe des toits et de la mettre sur les toits pour éloigner la foudre. C'était la réputation qu'on lui attribuait quelques siècles avant Benjamin Franklin et le paratonnerre. Il était obligatoire d'avoir de la joubarbe sur les toits, simplement parce qu'on lui attribuait cette propriété et qu'on va retrouver dans l'étymologie. On va s'arrêter là. Donc vous imaginez, hein, nous ne sommes que en l'an 800. Il nous reste à peu près 1000 ans d'histoire passionnante à voir. Il y en aurait pour 20 minutes, mais au moins vous avez une petite illustration. Y a-t-il un temps pour un échange ? Ou c'est trop tard ? Deux secondes. Ça, je ne suis plus en minute. Des questions, des précisions ? Simplement, je peux me permettre, dans ce qu'on vient de voir, le prétexte, il est botanique. C'est-à-dire le prétexte de relire l'histoire, c'est voir des plantes qui souvent sont connues et auxquelles on va donner une lumière particulière, on va donner du sens au nom de la plante. Et en particulier, vous voyez, j'ai attiré votre attention parfois sur le nom latin. Ce n'est pas que ça fait bien, mais que quand on connaît l'origine du nom de la plante, c'est beaucoup plus facile de mémoriser son nom et de la voir avec un regard nouveau. C'est un des prétextes. Voilà.
Donc, merci beaucoup. Vous retrouverez également dans le document ressources qui est dans le dossier différentes propositions que M. Scherer fait pour éventuellement intervenir dans vos établissements. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas aussi à aller auprès de lui lors du repas. Et puis là, maintenant, c'est notre invité surprise, voilà, Gildas Merceron, qui m'a fait la gentillesse avant-hier de me proposer de venir faire une conférence. Donc, M. Merceron est directeur de recherche au CNRS. Il travaille à l'Université de Poitiers au laboratoire Palévo-Prime. Et donc, il m'a parlé aussi des végétations. Voilà, il m'a dit c'est la végétation. Et donc, vous trouverez également dans le document ressources la conférence qu'il peut proposer dans vos établissements et dont il va nous dire en quelques mots les grandes lignes de son intervention. Je lui laisse tout de suite la parole.
Alors, on va...
Si la technique. Voilà, 5 minutes. Timing. C'est qu'on enregistre, donc c'est mieux.
Bien, bonjour à tous, donc Gildas Merceron, membre du laboratoire Palévo-Prime de paléontologie à l'Université de Poitiers. Et donc je vais faire très court, en 5 minutes. Donc les plantes, nous, on s'applique à vouloir caractériser l'environnement dans lequel ont évolué nos ancêtres, les préhumains, en Afrique, en Europe. Et on s'applique à reconstituer aussi quelle plante a pu constituer le régime alimentaire de nos ancêtres. Mm-hmm. Hop, c'est peut-être dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Donc en gros, nous, quand on va sur le terrain, eh bien, on a des sections sédimentaires. Certaines contiennent des fossiles de vertébrés. Et puis d'autres, quelques fossiles de plantes. Mais alors, très rarement, nous avons la chance de les trouver ensemble. Et comme vous pouvez aussi le noter, ici, vous avez 2 niveaux à plantes, un seul niveau à vertébrés fossiles, mais toute la section, qui représente des centaines de mètres d'épaisseur, on ne trouve aucune trace de vie. Voilà. Donc voilà ce qu'on trouve. Voilà, on a un collègue là, on trouve différents os. Ça, c'est dans le nord de la Grèce, j'en reviens tout juste, on a passé 3 semaines là-bas. On trouve des os en connexion, on trouve un crâne de cheval, on trouve des maxillaires et des mandibules d'une gazelle, Gazellospira. Et c'est très bien tout ça, mais il n'y a aucun reste de plante. On ne peut pas connaître l'environnement, et pourtant, c'est la question centrale qui nous intéresse, puisque l'environnement, c'est ce qui a, on va dire, contrôlé, orienté l'évolution des espèces au cours du temps. Et l'environnement, le climat notamment, la relation directe qu'il a avec les êtres vivants, c'est cette végétation. La végétation réagit rapidement au changement climatique. Or, cette végétation nous nourrit, nous abrite. Donc en fait, quand je vous dis qu'il n'y a plus de traces de plantes sur les sites à fossiles, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Comme je vous l'ai dit, de temps en temps, on trouve quelques plantes. Ici, une feuille d'un arbre qui peut ressembler peut-être à du chêne. Mais il y a d'autres traces, des traces invisibles que l'on trouve là, associées à nos mammifères, par exemple. Ces traces, ce sont les restes de pollen. On en a entendu parler. Alors les pollens, c'est passionnant, c'est intéressant, ça nous permet d'identifier jusqu'à l'espèce. Sauf que certains grains de pollen sont particulièrement efficaces pour être dispersés. Notamment, c'est le cas des pollens de pins, de conifères en général. Ils peuvent parcourir de très très grandes distances. C'est-à-dire que si on les trouve sur un site paléontologique, ça ne veut pas dire que localement nous avions des pins. Et d'autres, au contraire, vont tomber au pied de la plante. Vous avez également des phytolithes. Phytos, c'est la plante. Lithes, ce sont les pierres. En fait, dans les plantes, il y a des petits minéraux de silice, de calcium. Et lorsque la plante meurt, se décompose, ces petits minéraux se trouvent au sol, au pied de la plante, peuvent être transportés par les eaux de pluie et se déposer un petit peu plus loin. Eh bien, il faut savoir que la forme, la taille de ces phytolithes dépend de l'espèce végétale. Donc on peut reconstituer les environnements avec ces pollens et ces phytolithes, mais ça ne suffit pas. De temps en temps, ces indicateurs sont absents, et dans ce cas-ci, on s'intéresse, si on a la chance d'avoir des paléosols associés à nos mammifères fossiles, eh bien, on peut extraire, non pas des fossiles de plantes, mais des fossiles de molécules. Et ici, vous avez par exemple une série de molécules organiques qui sont en fait les témoins, par exemple, de la pellicule, de la cuticule des feuilles, par exemple. Et on a par exemple des collaborations avec le laboratoire P'. Actuellement, puisqu'on échantillonne du sédiment, notamment en Grèce, là où je travaille, pour retrouver des alcanes particuliers qui nous indiquent l'existence de plantes méditerranéennes il y a déjà 2-3 millions d'années. Un autre indicateur des végétations du passé, c'est ce qu'ont consommé les mammifères végétariens herbivores que sont les équidés, les antilopes, les cervidés. En fait, leurs dents s'est constamment usée lors de la mastication des éléments. Et cette usure dentaire, en fait, elle diffère en fonction des végétaux qui ont des propriétés mécaniques différentes. Ainsi, vous avez ici, je ne sais pas si ça se voit très très bien, des textures d'émail, de la surface de l'émail, d'antilopes qui ont consommé ici des graminées, les graminées très riches en phytolithes, et ici des antilopes qui ont consommé plutôt des feuillages d'arbres moins riches en phytolithes de silice. Eh bien, l'ensemble de ces indicateurs indirects de la végétation nous sont utiles, nous, en paléontologie, pour plusieurs raisons, comme je vous le disais. Un, vous voyez ici, sur ce diagramme, la variation de couleur blanche et noire. En gros, c'est la variation des quantités, des proportions de pollen d'herbacées versus de plantes buissonnantes ou arborées. Eh bien, au cours du temps, là, nous sommes entre 2,5 et 1 million d'années sur une carotte dans un lac ou dans l'océan. Et la variation de cette quantité de pollen nous est très utile pour caler cela avec les variations climatiques qu'on enregistre par ailleurs sur d'autres indicateurs. Nous, on travaille à Palévo Prime sur l'évolution des humains, les évolutions passées des humains. Et vous avez tous entendu parler de l'East Side Story, avec une partie de l'Afrique qui se scinde en deux, une partie est qui devient une prairie de savane, donc avec des plantes adaptées à des conditions climatiques particulières, et à l'ouest, plutôt des milieux forestiers. Bon, ça, c'est une jolie histoire, on travaille dessus, bien entendu, il y a des nuances, et à ce jour, nous, caractériser véritablement la végétation, les plantes qui consistaient l'alimentation et l'environnement de nos ancêtres est essentiel. Donc voici la seconde raison pour laquelle on s'intéresse aux plantes. Et finalement, un sujet de recherche qui me tient à cœur, c'est l'alimentation des hominidés. Certes, nous savons que certains hominidés consommaient des insectes et de la viande, avec le charognage, mais il y avait une diversité de plantes très importante, et c'est également cette usure des dents qui va nous renseigner sur les plantes qui ont été choisies, identifiées, par nos ancêtres, les préhumains. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je me suis un peu imposé sur cette présentation. Voici en gros ce que nos recherches et ce que nous pouvons vous transmettre lors de présentations grand public. Merci beaucoup.
Merci, c'était, je suppose, intéressant. Voilà, on est frustrés aussi, on aimerait en savoir plus. Voilà, donc maintenant, je vais inviter mon intervenant suivant, M. Douadi, qui va nous parler aussi de choses passionnantes. Donc Johan Douadi est maître de conférence à l'Université de Poitiers et il travaille dans le laboratoire écologie et biologie des interactions. Voilà. Je lui laisse le temps de s'installer.
Présentation précédente, moi j'ai parlé un peu des champignons et je me demandais s'il était possible de reconstruire les environnements en paléontologie avec les spores de champignons.
Dans les périodes plus anciennes, ouais, je pense que l'utilisation des spores a pu être utilisée, mais j'en sais pas plus. Non.
Bonjour, alors je m'appelle Joanne Douady, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers et je fais mes recherches dans le laboratoire EBI, écologie et biologie des interactions. Donc aujourd'hui je vais vous parler des plantes, mais je vais surtout vous parler des micro-organismes du sol qui sont capables de nourrir et protéger ces plantes. Donc déjà, pour faire une brève introduction, quand on demande à un enfant ou voire à un adulte de dessiner une plante, voilà à peu près le type de dessin dont on est fier. Et est-ce que vous voyez, l'intrus, j'ai envie de dire ? Voilà, on représente que très rarement l'autre moitié du végétal, c'est-à-dire ses racines. Et voilà, donc on omet de mettre les racines, c'est un peu une vue de l'homme, on va dire une vue un peu anthropomorphique, où on le représente finalement ce que l'on voit. Et tout pareil, lorsqu'on fait une recherche avec dessin de plantes sur Google, eh ben, on n'a pas beaucoup de représentations, on va dire, racinaires. Voilà, arrivé à la 20e recherche, on a une petite racine au niveau d'une plante de tarot, mais ce n'est pas évident. Donc, d'une même manière, lorsqu'on demande, on a une vue des champignons, on demande de dessiner un champignon, est-ce que vous voyez l'intrus ? Non ? Les spores, elles y sont, hein ? Les spores, on va les trouver sous le chapeau, là. Voilà, il manque tout le réseau souterrain du champignon. Et finalement, ce qu'on représente, alors voilà, sur un dessin ou même sur les ouvrages grand public où on vous montre l'organe reproducteur du champignon qui peut être comestible ou non. Donc on représente souvent l'organe reproducteur qu'on appelle le sporophore, mais on omet totalement de représenter le réseau mycélien du champignon qui est constitué de filaments qu'on appelle les hyphes et qui peut vivre en symbiose avec le système racinaire des plantes et qui va lui permettre littéralement de prolonger son système racinaire. Donc voilà, donc tout ce monde, on va dire, souterrain que constituent les racines et la biodiversité du sol est souvent omis par la vision humaine. Donc maintenant qu'on a conscience de ce monde souterrain, donc dans ce monde notamment, il va y avoir des relations entre les individus pour se nourrir. Alors, il peut y avoir entre deux ou plusieurs individus, ce qu'on appelle les relations de nutrition ou les relations trophiques. On peut avoir du commensalisme. Donc, le commensalisme, c'est quand l'hôte fournit une partie de sa nourriture, mais par contre, à un commensal, mais par contre, il n'obtient aucune contrepartie. Donc, l'exemple qu'on utilise souvent, c'est le héron garde-bœuf qui va profiter de la présence des vaches pour manger des petits animaux, des petits insectes qui vont être bougés. Mais par contre, la vache n'en retire aucun avantage. L'autre exemple de relation de nutrition trophique, ça va être le parasitisme. Où là, le parasite, clairement, tire profit aux dépens de l'hôte. Ça peut aller même jusqu'à la mort de l'hôte dans le cas de pathogènes nécrotrophes. Donc ça, chez les plantes, on a de nombreuses maladies cryptogamiques, comme très connues, il y a eu le mildiou, qui a créé des exils en Irlande notamment, les mycoses, etc. On a plein d'exemples. Mais la relation qui semble, un point de vue d'évolution, la plus évoluée, ce serait la symbiose, c'est-à-dire le mutualisme où à la fois l'hôte et le symbiose en retirent des profits via un bénéfice mutuel. Donc ça, d'après l'évolution, ce serait une des interactions les plus évoluées, car il va y avoir une relation de gagnant-gagnant. Alors que vous voyez, d'un point de vue évolutif, le parasitisme, c'est un peu, ça peut paraître, on va dire, contraire, c'est-à-dire que d'un point de vue d'évolution, l'hôte peut finir par, enfin, le parasite peut finir par tuer son hôte. Donc, Donc moi, je vais m'intéresser, je m'intéresse plus particulièrement au mode de nutrition symbiotique ou mutualisme, où il va y avoir un bénéfice mutuel entre l'hôte et le symbiote, et plus particulièrement entre la plante et le champignon. Donc on connaît notamment les fourmis champignonistes qui vont apporter des feuilles à un champignon qu'elles cultivent et qu'elles vont ensuite déguster, manger. On connaît aussi bien les lichens, qui est un organisme qui résulte de l'association entre un champignon et des algues. Donc moi, le sujet de mon étude, ça va être les mycorhizes, voilà. Donc ce mot, les mycorhizes, qui en fait expliquent l'association symbiotique entre les plantes et les champignons. Et là, une fois encore, les mycorhizes, lorsqu'on connaît l'étymologie, ben c'est plus facile de retenir la définition. Donc mycorhize, ça vient de myco, champignon, et de rhize, racine. Donc c'est l'association symbiotique entre les racines d'une plante et les champignons. Donc là, par exemple, vous pouvez voir le réseau mycélien qui est en symbiose avec les racines d'un pin maritime et qui va littéralement prolonger le système racinaire du pin. Voilà, donc quels sont les bénéfices mutuels lors de cette interaction symbiotique entre racines et champignons? Donc pour l'hôte, la plante, on va avoir une meilleure nutrition, donc une biofertilisation. Notamment, elle va recevoir des nutriments supplémentaires et de l'eau. Mais elle va avoir également une meilleure protection, donc une bioprotection contre les stress qui sont biotiques, donc contre les maladies, mais également contre les stress abiotiques, comme une meilleure résistance, par exemple, à la sécheresse ou au stress salin. Donc là, ça peut être intéressant, notamment dans un contexte de réchauffement climatique. Et qu'est-ce que va en retirer le symbiote? Donc en retour, le symbiote, lui, il va récupérer des composés carbonés qu'il est incapable de synthétiser, mais également, comme on peut le voir assez facilement, une niche écologique pour se reproduire. Bah oui, en effet, les champignons, on les voit se reproduire, faire leurs organes reproducteurs en automne autour des plantes. Donc, il y a eu une coévolution. Comment et quand sont apparues ces symbioses entre plantes et champignons? Donc ça date d'il y a 500 millions d'années. Donc il y a 500 millions d'années, les plantes, les algues plutôt, sortent de l'eau. Elles sortent de l'eau sous forme... Donc les premières plantes pionnières qui ont pu coloniser la Terre, ce sont les mousses ou bryophytes. Vous voyez, les mousses. Ensuite, l'apparition des fougères. Et donc, lorsqu'elles sont arrivées sur cette Terre, il y a 500 millions d'années, eh ben, il n'y avait pas toute cette couche d'humus propice à la vie. C'était plutôt, on va dire, un environnement très rocailleux. Et donc, dans cet environnement très rocailleux, les nutriments sont peu disponibles, contrairement à un environnement aquatique, où là, vous avez tous les éléments qui sont dissous dans l'eau. Donc, pour pouvoir acquérir leurs nutriments, eh ben, ces plantes pionnières qui ont colonisé la Terre, elles ont développé des associations avec des champignons qui, eux, étaient capables d'atteindre les interstices de sol, de rocailles, et de dissoudre ces éléments pour ensuite les rendre aux plantes. Donc voilà, ça s'est passé il y a 500 millions d'années, et on le sait notamment parce qu'il y a sur les archives de fossiles, on retrouve, vous voyez, des structures similaires aux mycorhizes que l'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, en fait aussi, cette association symbiotique, elle est très répandue. En effet, cette association symbiotique avec les champignons, elle est capable de coloniser 90% des plantes aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous prenez une plante dans son milieu aujourd'hui, vous avez une très grande chance qu'elle soit en symbiose avec un champignon. Donc capable de coloniser 90% des plantes. Pourquoi? Parce que ces champignons, ils ont colonisé l'ancêtre commun de toutes les plantes il y a 500 millions d'années. Donc ces plantes, elles ont transmis leur programme génétique qui permet aux champignons d'entrer dans ces racines. Donc une association très répandue et très ancienne, et on pense qu'elle a permis aux plantes de coloniser la Terre. Voilà. Donc il y a plusieurs... Donc les plus anciennes qui sont apparues il y a 500 millions d'années, ce sont les endomycorhizes, alors que les ectomycorhizes sont apparues un peu après, lorsqu'on a eu les premières forêts lors du Carbonifère jurassique. Donc, ectomycorhize, on dit ectomycorhize. Pourquoi ? Parce que le champignon, vous voyez, en bleu, il reste à l'extérieur des racines. Donc, ectomycorhize, il va former ce manteau mycélien qui littéralement enveloppe et protège la racine. Donc ça, ce sont les champignons qu'on connaît bien, les ectomycorhizes. Ce sont des champignons comestibles et non comestibles, donc comme la truffe, les ascomycètes et le cep, les basidiomycètes. Donc, est-ce que vous pouvez me citer d'autres exemples d'ectomycorhizes ? Non ? Le lactaire, en effet, ouais. Le lactaire. Les girolles, voilà. Donc il y a plein d'exemples de champignons comestibles ectomycorhiziens. Et on a également des champignons qui sont endomycorhiziens. Donc les champignons endomycorhiziens, vous voyez, ils rentrent à l'intérieur des racines pour former ces petites structures symbiotiques en forme d'arbustes, vous voyez, qu'on appelle les arbuscules. Donc comment se met en place la symbiose mycorhizienne ? Donc tout d'abord, le filament, vous voyez, le filament fongique, ici que vous avez en rose, va rentrer en contact avec l'épiderme de la racine pour former le premier point de contact qui va ressembler à un petit pied. Donc on appelle ça l'hyphopodium. Ensuite, donc la cellule végétale va réagir et le noyau de la cellule végétale va anticiper le point d'entrée du champignon, va migrer au niveau de la surface supérieure. Donc il va y avoir un grand réarrangement de microtubules, de lactines, etc. pour former ce tunnel de pénétration, vous voyez, qui va passer à l'intérieur de la cellule végétale, mais sans la percer, attention, sans la percer, c'est important. Et ensuite, une fois que ce tunnel de pénétration est formé, eh ben, le filament fongique va en profiter pour entrer dans les cellules et ensuite coloniser les tissus plus en profondeur. Donc vous voyez, ce qui est important là, c'est qu'on est sur une symbiose. Je vous ai dit, le champignon, il rentre à l'intérieur des racines, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, il rentre, mais sans percer le contenu de la cellule. Donc on est bien sur une symbiose, l'intégrité physiologique des cellules est maintenue. Alors contrairement à un champignon pathogène, qui lui va éclater la cellule, et on va avoir nécrose, mort de la cellule. Là, on est bien sur une symbiose avec intégrité de la cellule conservée. Voilà, donc ensuite, il va aller coloniser les couches plus en profondeur pour former cette structure que j'ai dit d'arbuscule, parce que c'est une structure fongique qui ressemble un peu à un arbuste, et c'est très ramifié. Ça permet d'avoir notamment une surface d'échange qui est optimale. Et c'est au niveau de ces arbuscules qu'il va y avoir l'échange bidirectionnel entre la plante et le champignon. Donc l'arbuscule est le siège des échanges nutritionnels de la mycorhize. Donc comment se passent les échanges de nutriments entre plantes et champignons ? Donc tout d'abord, au niveau du sol, les plantes elles sont capables d'assimiler des nutriments comme l'azote N, le phosphate P, le potassium K ou le soufre. Donc ça, ce sont les nutriments primaires. Elles sont capables de les assimiler via leurs racines pour les distribuer dans l'ensemble de la plante. Cependant, une plante qui est colonisée par un champignon mycorhizien, et bien via le champignon, elle va être capable d'explorer une surface supplémentaire du sol et par conséquent, elle va recevoir des nutriments supplémentaires et elle va avoir une promotion de sa croissance. En retour, le champignon, lui, il n'est pas capable de faire la photosynthèse. Donc la plante, elle fixe le dioxyde de carbone pour faire des sucres, notamment le saccharose, et elle va donner une partie de ces photoacidies-là aux champignons sous forme de glucose et de fructose, et également quelques lipides. Donc voilà, maintenant, si on zoome au niveau de notre pain maritime qui est en association avec ces micro-organismes symbiotiques, donc dans le sol, on retrouve voilà, ces propagules de champignons symbiotiques qui germent et qui vont aller initier le contact. On va avoir formation des arbuscules, de vésicules de réserve. Et via ce réseau mycélien qui prolonge le système racinaire, les plantes vont acquérir davantage de nutriments et d'eau. Ce qui va permettre d'augmenter la croissance végétale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la biofertilisation. Donc aujourd'hui, il y a de nombreux projets en recherche et en développement, et également beaucoup de start-up qui champignonnent dans le domaine pour produire ce qu'on appelle des inoculants mycorhiziens qui vont permettre de valoriser la biodiversité naturelle du sol pour augmenter les rendements agricoles. Donc on voit ces inoculants mycorhiziens, ça marche sur de nombreuses espèces de familles de plantes, donc les arbres, ici vous avez un olivier qui a été inoculé par un champignon mycorhizien ou non inoculé, ça marche très bien sur les aliacées, donc là on a l'oignon. On voit également une augmentation du rendement là, chez les pommes de terre ou encore chez toutes les céréalières. Donc je dis à peu près 85-90% des plantes terrestres qui sont capables de faire cette interaction. Donc vous voyez que ces champignons, ça va être une réelle alternative à l'utilisation des intrants chimiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir valoriser la biodiversité du sol pour augmenter les rendements agricoles. Donc, ces champignons ont une réelle alternative à l'utilisation d'intrants chimiques. Donc, en plus de la biofertilisation, on va également avoir une meilleure protection des plantes. Donc, tout d'abord, j'ai dit, via la biofertilisation, vous allez avoir une tolérance accrue aux maladies. Mais bien sûr, une plante qui va être mieux nourrie, elle va avoir une meilleure résistance aux maladies. Dans un second temps, tout naturellement via cette barrière physique que représente le champignon. Donc ça, c'est d'autant plus vrai pour les champignons, les ectomycorhizes, qui restent à l'extérieur des racines. Donc là, vous allez avoir ce manteau qui va littéralement former une barrière physique, et ça va être plus compliqué à une bactérie pathogène ou à un autre champignon pathogène. Il va devoir percer cette barrière pour envahir la plante. Également, vous allez avoir une compétition directe avec les pathogènes. Mais en effet, dans un sol, si vous avez de nombreux micro-organismes symbiotiques, comme des champignons ou des bactéries bénéfiques, par la présence de ces propagules symbiotiques, elles vont être en compétition directe pour la présence de champignons parasites. Et enfin, vous avez une induction de la résistance systémique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une plante qui a déjà été colonisée par un champignon symbiotique, il va avoir une meilleure résistance contre l'attaque future de champignons, lui, bien pathogènes. Vous voyez, un peu comme une sorte de vaccin. Et au contraire, une plante qui n'a jamais été colonisée par un champignon symbiotique sera plus sensible à une attaque de pathogène. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la bioprotection. Donc ça c'était la bioprotection contre les stress biotiques, mais également contre les stress abiotiques. Non, pardon, ça c'est encore les stress biotiques. C'est-à-dire, voilà, là, la plante qui a été inoculée par l'inoculant mycorhizien, il va avoir une sensibilité plus faible aux champignons pathogènes. Donc là, on a inoculé un champignon pathogène plus la mycorhize. Là, c'est la plante on commence à avoir des symptômes de maladie et elle pousse moins bien. Là, on a également une bioprotection contre des nématodes. Donc c'est des vers pathogènes qui vont former des nodosités. Vous voyez, là, lorsqu'on ajoute la mycorhize, on n'a plus ces nodosités phytoparasites. On va également avoir une bioprotection contre des stress abiotiques. Donc, la mycorhize va notamment atténuer l'effet toxique de certains métaux lourds. Donc là, vous voyez une expérience où les chercheurs ont mis la plante contrôle sans mycorhize. Ici, la plante sans mycorhize, mais avec l'ajout de cadmium, qui est un métal lourd, donc avec un brunissement des racines par la toxicité du cadmium. Et vous voyez, quand on ajoute la mycorhize, il va y avoir un plus faible brunissement des racines dues au cadmium. Et en plus, lorsqu'on ajoute la mycorhize, vous allez avoir une croissance optimisée, quelle que soit la présence ou non
de métal lourd. Donc voilà, vous voyez que donc, ces inoculants mycorhiziens représentent également une alternative biologique à l'utilisation de pesticides ou de produits, on va dire, industriels. Donc maintenant, je voudrais conclure cette intervention par, en se mettant à l'échelle de l'écosystème, donc se mettant à l'échelle d'une forêt, et ben, ce réseau mycélien, il va également permettre de relier les arbres, de les interconnecter via une toile de communication. Donc là, je vais finir par cette vidéo de vulgarisation, vous voyez. Vous voyez, à l'échelle humaine, on a l'impression que ces arbres semblent isolés les uns des autres. Cependant, on l'a vu, ils sont interconnectés dans le sol via leur réseau de champignons qui va leur permettre de mieux se protéger contre les maladies et de mieux se nourrir. Mais ces arbres ne s'échangent pas que des nutriments, ils vont également communiquer grâce à des molécules de signalisation. Ah, j'ai pas réussi à poser. Dommage. Ouais. Ça marche pas très bien. Bon, c'est pas grave. Donc, on dit que le champignon tisse une toile souterraine qui connecte les arbres de la forêt. Donc, en anglais, ils appellent ça the wood wide web. Donc voilà, j'en profite aussi pour vous présenter un article de vulgarisation que je vais vous faire passer et que vous pourrez relire à la maison si vous êtes intéressé. Et j'ai également amené, j'ai oublié d'en parler, j'ai amené un microscope là où vous allez pouvoir voir cette structure arbusculaire au sein d'une racine de poireau. Donc voilà, merci pour votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une ou deux questions, le temps que mes prochains intervenants viennent de la tribune, s'il vous plaît?
Bonjour. Je voudrais savoir si j'ai un arbre chez moi qui est malade et si on pourrait le soigner comme ça, avec ça.
Donc, il existe des inoculants mycorhiziens qui sont disponibles. Cependant, à savoir si l'inoculant mycorhizien en question est efficace contre la maladie.
Mais en fait, c'est qu'il a été, il est près des travaux, puis il y a eu des remblais, puis il faut qu'on dégage, quelqu'un nous a dit qu'il faut qu'on dégage un peu les racines, mais il faut qu'on mette des nutriments. Donc c'est pour ça le jus de compost, et puis je me dis peut-être qu'il y a des choses que peut-être on peut mettre. Je sais pas si ça, oui, ça s'achète, ces champignons.
Ça s'achète. Après, voilà, il y a aussi. On peut en trouver un peu partout, notamment sur des sites qui ne sont pas forcément recommandés.
Ah oui.
Il y a aussi des professionnels qui vendent des inoculants, on va dire, plus certifiés.
D'accord.
Est-ce que ça résiste à la sécheresse? Non, je ne sais pas. Est-ce que ça résiste à la sécheresse?
Donc la question, c'est est-ce qu'on a une meilleure résistance à la sécheresse des plantes? Alors oui, tout à fait. Ça, c'est déjà montré. Donc je vous ai dit que j'ai beaucoup insisté sur l'apport de nutriments. Mais en effet, il y a aussi un apport d'eau supplémentaire. Donc tous ces apports, ça se fait via des protéines membranaires. Bon, personnellement, moi, je fais mes recherches sur ces protéines membranaires qui permettent de faire rentrer les nutriments dans les plantes. Et pour l'eau, les protéines membranaires, ça va être des aquaporines qui vont être induits lorsqu'il y a la mycorhize, et on va avoir une meilleure entrée d'eau depuis la plante, depuis le sol jusqu'à la plante, en utilisant cette voie mycorhizienne. Vous avez d'autres questions?
vous répéter.
Donc la question, c'est que deviennent les métaux lourds lorsqu'on utilise une voie qu'on appelle de phytoremédiation, donc là plutôt de mycorémédiation. Donc il y a plusieurs... déjà, tout dépend de la souche mycorhizienne qui est utilisée. Donc il y a une partie qui va être en effet métabolisée, donc qui va être métabolisée, donc qui va être entre guillemets, qui va disparaître, qui va être transformée en d'autres molécules ou intégrée dans d'autres molécules. Il y a une partie aussi qui va être séquestrée dans la plante. Donc ça, ça va permettre, vous voyez, ensuite il va falloir récolter la plante pour se débarrasser de ces métaux lourds. Et il y a aussi une partie qui va subsister. Hein. Oui, une autre question.
Est-ce que la biofertilisation est vraiment bien perçue dans le monde agricole? On a l'impression, moi je ne connais pas, mais est-ce que c'est un grand développement? Parce que ça peut être...
Oui, je pense que oui. C'est...
Donc la question, c'est... La question, c'est est-ce que la biofertilisation commence à champignonner dans le monde agricole? Donc, en effet, ça commence à arriver avec l'offre d'inoculants mycorhiziens. Bien sûr, on a la demande du monde agricole, notamment dans les certifications bio ou Déméter, etc. Et bon, le problème, le challenge des gens qui développent ces inoculants, ça va être justement de s'adapter aux pratiques agricoles. C'est-à-dire que ces inoculants puissent être dispersés avec le même matériel que les produits qui étaient dispersés auparavant. Et surtout, aussi le challenge, donc, c'est d'avoir une formule qui va être appliquée facilement, au bon moment, qui va être efficace et surtout qui va avoir un prix, on va dire, comparable à ce qui a pu être utilisé auparavant. Donc ça, c'est toute la... C'est s'adapter au système conventionnel, c'est tout le challenge du développement des inoculants mycorhiziens.
Si on les laisse durant le sol, est-ce que ça peut empêcher la pratique du labour, où on sait que, enfin, toujours pareil, dans le cas des pratiques agricoles,
est-ce que ça peut éviter le labour? Est-ce que sur une plante, on peut ressemer derrière et que ça va s'adapter sur un nouveau, sur une nouvelle plante, enfin semer, etc.
Alors ça, on a peu de données sur l'effet du labour sur les propagules. Après, je pense que bien sûr, si vous perturbez le sol, vous perturbez forcément toutes les micro-organismes, donc pas seulement les champignons, mais les bactéries, les protistes. Et il est actuellement, je crois, fortement déconseillé de labourer et de laisser des sols nus. Hein. Ces champignons, il ne faut pas oublier qu'ils sont aussi là depuis 500 millions d'années. Donc ils ont pu aussi perpétuer leur propagation sans l'homme. Hein. Il ne faut pas l'oublier.
Je suis intervenu sur le sujet aussi, hein, dans le monde agricole en particulier. Ce qui favorise la mycorhisation et ce qui la défavorise, bien sûr, il a été dit tout à l'heure, hein, 90% des espèces sont mycorhisables, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont mycorhisées. Il y a des variétés dans le monde agricole, des variétés qui sont mycorhisables et d'autres qui ne le sont plus, malheureusement. Et dans les pratiques qui favorisent la mycorhisation, c'est la présence... La mycorhize, pour qu'elle se développe, hein, sera confirmée ou infirmée, mais il faut une présence d'azote. Et par contre, l'apport de phosphore est néfaste à la mycorhisation. C'est-à-dire que si on utilise des engrais phosphoriques, eh bien, on inhibe la mycorhisation, on rend un peu fainéante la plante. Donc limiter ou ne pas utiliser d'engrais phosphoriques est plutôt favorable. Les fongicides sont forcément néfastes, hein, quels qu'ils soient, à la mycorhisation. Et donc, il y a des pratiques qui sont favorables, choix de variété, pas de phosphore, pas de fongicides, qui sont favorables à la mycorhisation, alors qu'à l'inverse, le recours à ces pratiques va inhiber, voire faire disparaître totalement la mycorhisation. Donc c'est faisable, la mycorhisation, mais pas forcément toujours réalisée. Et c'est vrai que quand les plantes sont mycorhisées, il y a des meilleurs résultats. Je précise aussi que dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde agricole, les mélanges de variétés, voire le mélange d'espèces dans les semis, est très favorable à la mycorhisation. Voilà. On l'a étudié avec des groupes. Voilà.
Et inversement, plus on a une biodiversité souterraine, plus on va avoir une biodiversité au-dessus du sol.
Oula, y a des questions ? Non. Alors, une dernière.
Au niveau d'une espèce agricole, ça ne peut pas déséquilibrer finalement le monde fongique normal?
Alors ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Bien sûr, quand on va, si on inocule une espèce qui va être hyper mycorhizogène, eh ben, elle va se développer au détriment de la biodiversité, on va dire, endémique ou locale au sol. Alors ça, c'est encore les certifications au niveau européen pour tout ce qui est bio-inoculant. Il y a encore du travail à faire. Hein, il y a encore du travail à faire. Et c'est vrai que ça pose une question, éthique hein, quant à l'utilisation de ces bio-inoculants qui n'est pas toujours couvert.
Merci. Eh bien non, Laurent, pas de questions. On continue, tu pourras parler comme ça.
Au niveau botanique, hein, la famille botanique la plus mycorhisée, c'est la famille des éricacées, c'est-à-dire famille de la bruyère, de la myrtille. C'est une famille botanique, vous les connaissez, hein, qui pousse dans des milieux très, très acides, donc plutôt très hostiles à la capacité qu'ont les plantes à se nourrir, des milieux souvent très pauvres. Et naturellement, les plantes compensent la difficulté du milieu avec un gros développement de la mycorhisation. Voilà.
Voilà. Spécialiste. Merci beaucoup à tous les deux. Merci encore à M. Douadi. Voilà, je pense que c'est passionnant. Puis ça nous fait penser au film là, qui a été hyper sur l'intelligence des arbres et tout, là, que tout le monde a vu pratiquement, je suppose. Donc voilà. Donc maintenant on enchaîne toujours. Voilà, je suis à peu près dans le timing. Donc j'appelle ça table ronde, mais en fait c'est trois intervenants qui interviennent sur des sujets complémentaires. On va commencer par Monsieur Florent Glattard, c'est ça, qui nous vient du CRIT de Rochefort. Alors je ne sais pas si parmi vous certaines connaissent le CRIT. Donc il va nous présenter rapidement et leur travail qu'ils font sur les hortensias, mais pas que. Et puis après, nos deux autres intervenantes, donc Claire Touchard, qui va nous présenter les activités du CPIE, et ensuite Caroline Lemanissier, qui vient donc de Vienne Nature. Voilà. Donc je vous laisse tous la parole. Donc vous avez tous à peu près 10 minutes, un quart d'heure.
Merci. Alors juste une petite précision. L'hortensia, je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'on travaille sur l'hortensia. Par contre, il y a un conservatoire du bégonia. Qui est renommée sur la zone où on travaille. Voilà. Donc, je suis Florent Glattard, chargé d'études au CRIT Horticole. Donc, CRIT, ça veut dire Centre de ressources et d'innovation et de transfert de technologie. Donc, l'objectif de ces structures qui sont labellisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, c'est d'essayer de faire le lien entre les chercheurs qui développent des projets innovants et arriver à accompagner ces projets innovants jusque dans les entreprises. Et donc nous, on est spécialisés dans le domaine du végétal, dans l'ingénierie végétale. Et comme évidemment, c'est la thématique phare de la science ce livre 2020, voilà pourquoi on a été invité aujourd'hui à vous présenter nos activités. Donc on est basé à Rochefort, donc au sud de La Rochelle, et plus précisément au sud de Rochefort, à côté de la Charente. On a nos bureaux, et là je vous ai mis une photo aérienne de la zone horticole de Rochefort, donc qui est en fait une zone d'activité assez richement dotée en serres. Et donc nous on a une serre d'expérimentation sur ce site de la zone horticole de Rochefort. Donc aujourd'hui, nous, on est une équipe d'une dizaine de personnes pluridisciplinaires, à la fois dans les profils. Il y a des personnes qui sont plutôt de la botanique, des personnes qui sont plutôt de la chimie, d'autres de l'agronomie. On a des doctorants, on a des ingénieurs, on a des techniciens. Donc c'est vraiment une équipe pluridisciplinaire. Vous allez me dire, à 10, d'arriver à être si varié, c'est quand même que chacun est vraiment différent. On est piloté par un conseil d'administration qui est lui aussi représentatif à la fois du secteur de la recherche, puisqu'on a des universitaires, et aussi également du monde de l'entreprise, puisqu'on a des chefs d'entreprise, notamment de production horticole. On a évidemment des équipements spécifiques à notre activité, que ce soit des équipements informatiques, mais également un laboratoire de recherche, donc où on peut faire des essais, des analyses, et également une plateforme serre et des collections végétales, que ce soit de plantes colorantes ou alors que ce soit de végétalisation de toitures, notamment des plantes spécialisées pour avoir un développement sur les toitures végétalisées. Voilà. Les différentes activités phares de notre structure, c'est l'ingénierie des serres, la production horticole, les toitures et murs végétalisés, le paysage et l'aménagement du paysage, l'agriculture urbaine et les colorants végétaux. Donc en fait, initialement, on est parti de l'ingénierie serre et petit à petit, on a 30 ans d'existence. Y a des sujets qui font l'actualité, qui forcément amènent notre intérêt et nous amènent à développer cette activité. Donc je vais faire un zoom un peu sur chacune de ces activités en essayant de passer un peu plus de temps sur les colorants végétaux avec cette fonctionnalité-là qui peut être intéressante et pas toujours très connue. Donc d'abord, l'ingénierie serre, ça consiste en fait à être maître d'œuvre en construction de serre. Donc en gros, en France, on est deux bureaux d'études. Quand il y a une serre qui se construit dans le cadre notamment d'un marché public, ça peut être aussi des marchés privés, ils sont obligés de passer par un maître d'œuvre. Donc on est deux cabinets en France à faire cette activité-là. Donc on construit des serres, on aménage les serres, y compris les équipements qui, à l'intérieur des serres, vont permettre de chauffer les serres, de réguler le climat de la serre, de faire l'arrosage dans les serres, etc. Donc là, je vous ai donné quelques exemples de serres qu'on a réalisées. Alors, les serres peut-être les plus connues au niveau médiatique, c'est les serres du Jardin des Cours de Roland-Garros, donc qui abritent les collections botaniques de la ville de Paris, des serres d'Auteuil. On a également fait, à droite du cours des serres, vous avez la serre botanique d'Évreux, qui a été réceptionnée l'année dernière, donc qui abrite aussi des collections botaniques de la ville. On fait également des serres pédagogiques. Donc là, c'est une serre à Saint-Germain-en-Laye. On en a réceptionné une en début d'année là, à Niort, les serres du lycée horticole de Niort, à Sainte-Pezenne. On a aussi fait celle de Turé, à Châtellerault, à côté de Châtellerault. Ça peut être des serres de recherche, comme là, l'INRA, avec l'Institut national de recherche agronomique à Angers. Et puis, ça peut être aussi des serres de production pour les services espaces verts des villes. Et donc, à droite, la photo que je vous ai mise, c'est les serres qu'on a fait à Clermont-Ferrand. Voilà. Une autre activité qu'on fait, c'est le conseil sur la production horticole. Alors, je vous ai mis deux exemples de prestations qu'on a réalisées récemment. C'est des audits de services espaces verts et de collectivités. Donc, en fait, on va dans le service espaces verts de la ville. On regarde comment c'est organisé, tant sur le plan humain que sur le plan des équipements, que sur le plan des bâtiments. Et généralement, ils nous font intervenir quand ils ont un projet de rénovation de leur serre et qu'ils veulent parfois construire ailleurs. Et donc, ils nous demandent est-ce que les surfaces qu'on avait développées jusqu'à présent sont suffisantes ou pas. Donc, ça nous fait réfléchir si l'activité mérite de rester tout ou partie en régie ou d'être externalisé, etc. Donc un diagnostic d'un service. Et puis quelque chose qui peut être un peu plus anecdotique, c'est on a réalisé pour le compte de la région Poitou-Charentes, donc l'ex-région Poitou-Charentes, une étude de faisabilité de la culture de la stévia. Donc on a mis en place des cultures de stévia chez deux agriculteurs sur des terroirs différents pour essayer de voir si techniquement c'était faisable. C'est faisable. C'est faisable. Après, le frein, c'est économique. Et ça va dépendre de la valorisation qu'on peut faire de cette plante-là. Donc là, en l'occurrence, sur le territoire Poitou-Charentes, il n'y avait pas une émulation possible au niveau économique sur des débouchés de la stévia. Mais sinon, d'un point de vue culture, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous ai donné... alors, je sais que ça peut intéresser. Donc, j'ai mis pas mal d'exemples sur la végétalisation de bâtiments. Donc nous, on a commencé il y a une dizaine d'années sur cette thématique pour caractériser les différents dispositifs de végétalisation de bâtiments. Parce que souvent, c'est des entreprises du domaine du bâtiment qui développent ça. En fait, les entreprises d'étanchéité de toiture, donc qui n'ont pas du tout d'affinité avec le végétal. Donc on s'est dit, bon, on va peut-être essayer d'aller voir ce qu'ils font et peut-être leur apporter une plus-value sur cet aspect végétal, évidemment, pas sur l'aspect bâtiment. Et donc, on a cherché à caractériser leurs modules. On a fait des caractérisations, notamment thermiques, pour regarder est-ce que ça a un impact ou pas sur la thermique d'un bâtiment. Donc, on a fait des études conséquentes avec le l'EPTIAB à La Rochelle sur ce sujet-là. Sinon, on a fait aussi des études de diversification de gamme parce que c'est bien beau d'avoir des toitures végétalisées, mais si c'est pour qu'elles se ressemblent toutes avec une plante qui vient du fin fond de la Pologne, bon, c'est peut-être pas palpitant. Donc, il y a des choses intéressantes à faire sur le choix des végétaux qui sont mis sur ces bâtiments. On a aussi caractérisé la biodiversité des toitures végétalisées. Donc, on a pris un réseau d'une trentaine de toitures végétalisées. On allait faire des recensements d'oiseaux, d'insectes, pour se rendre compte si on avait une plus-value et la quantifier, cette plus-value, notamment pour quand il y a un maître d'ouvrage qui s'intéresse à éventuellement installer une toiture végétalisée, lui donner des arguments sur l'intérêt de cette démarche-là. Ça, c'est aussi un joli projet qui a été fait à Rochefort avec le service Espace Vert de la ville. En fait, vous savez que les pesticides sont en train d'être de plus en plus relégués aux oubliettes. Et notamment, les collectivités ont eu l'obligation de ne plus recourir aux pesticides. Il y a quelques exceptions, mais de manière générale sur la ville. Et un endroit qui est compliqué de gérer pour les collectivités, c'est ce qu'on va appeler les îlots directionnels. Donc là, vous avez un îlot directionnel qui était traditionnellement géré avec des pesticides, donc des désherbants en fait. Pourquoi ? Donc ils minéralisaient au maximum pour éviter le développement de végétaux, pour rendre le milieu impropre au développement d'un végétal. Sauf que malgré tout, il y a des végétaux qui ont cette capacité de se développer même dans ces milieux pauvres. Et donc régulièrement, ils étaient obligés d'intervenir. Et comme c'est des endroits qui n'est pas facile pour faire une intervention, parce que là, si vous avez une personne au milieu, forcément, vous avez le risque avec les voitures qui passent à côté. Vous ne pouvez pas non plus empêcher la circulation tous les 4 matins au milieu d'un rond-point, etc. Donc, c'est des zones assez critiques pour intervenir. Donc, jusqu'à présent, les pesticides étaient une solution pragmatique parce qu'elles permettaient d'intervenir très, très rapidement. Un passage par an, hop, c'était fini. Donc maintenant, quand il s'agit d'aller désherber avec des solutions thermiques ou à la main, on se retrouve avec ce problème d'intervention en milieu dangereux et de réintervenir souvent. Donc on a développé avec la ville de Rochefort, sur le même principe de ce qu'on a fait sur les toitures végétalisées, des végétaux qui ont cette capacité de se développer sur des substrats très, très peu épais, donc avec peu de réserves en eau, donc dans des milieux très minéraux. Et donc, ils vont être capables de les coloniser et pour lesquels on ne va pas avoir besoin d'entretien. Donc là, on n'a plus besoin de venir régulièrement désherber cette parcelle. On a préféré la mettre avec une végétation qui va s'autosuffire, comme une plante couvrante, une plante couvre-sol. Voilà. Et puis, on a réalisé aussi, mais ça remonte un peu, une enquête sur l'entretien des murs végétalisés en France. Donc, on a contacté une cinquantaine de gestionnaires de murs végétalisés. Et on leur a demandé, au bout de quelques années d'utilisation de ces murs, est-ce que ça a un sens ou pas ? Est-ce que c'est compliqué ? Donc, ce qui ressortait de ça, c'est que souvent, on trouve un financement pour l'investissement, parce que ça permet de faire un peu un coup de bling-bling dans les moments qui vont bien. Et puis, par contre, on oublie un peu derrière l'aspect entretien, qui est quand même assez relativement coûteuse. Ensuite, je vais vous présenter un premier volet de notre activité sur l'agriculture urbaine qui prolonge l'ingénierie serre, qui consiste en fait à mettre des serres en ville, des serres sur des espaces qui ne sont pas utilisés pour de l'habitation. Donc notre lieu de prédilection, c'est des bâtiments. Donc là, vous avez un bâtiment existant qui est une blanchisserie et au-dessus, on construit des serres pour faire de la production agricole. Maraîchère. Et alors, l'objectif de l'entreprise qui est venue nous voir pour faire cette serre, parce qu'en fait, on a quand même en vision que dans une serre en ville, on ne va pas avoir de substrat terreux. Donc, on commence à se dire bon, bah alors pourquoi vous cherchez à mettre de l'agriculture en ville si on est sur de l'hydroponie, par exemple. Donc, en fait, l'intérêt, malgré tout, d'avoir une culture sous serre qui va être en hydroponie, en l'occurrence dans cet espace-là, c'est qu'on va éviter le déplacement d'une plante depuis le sud de la France, par exemple si on est en région parisienne, ou même voire de pays exotiques. On va pouvoir produire sur place et via un système d'AMAP, par vélo, ils vont livrer les riverains à côté. En plus, comme on est dans un milieu qui est quand même contrôlé, on limite le développement des pathogènes, des insectes ou des champignons pathogènes. Donc on va éviter l'utilisation de pesticides pour ces plantes-là. On va être dans un milieu complètement recyclé. Donc l'eau, toute l'eau qui va être mise va être recyclée. Il ne va pas y avoir d'eau perdue. Donc on arrive quand même à avoir des systèmes vertueux. Alors après, propre à chacun de juger sur est-ce qu'on souhaite que 100% de l'alimentation soit produite en sol ou pas. On se pose la question de la qualité de ce qui est produit, du goût de ce qui est produit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans la recherche variétale, ce qui induit souvent des légumes qui ont un goût moins réjouissif que des plantes qu'on a pu connaître ou des plantes qui sont produites localement, en fait, c'est le temps de transport. Donc généralement, les sélectionneurs des végétaux commerciaux ont des demandes pour les producteurs de plantes qui mûrissent et qui restent à un stade pas tout à fait mature, mais surtout qui ne s'abîment pas pour permettre d'entrer dans les chaînes de commercialisation, de transport, etc. Donc quand vous produisez avec une variété qui peut être récoltée le matin et vendue la journée même, en termes gustatifs, on peut aller vers des variétés qui ont des intérêts et qui arrivent vraiment à maturité. Voilà. Donc là, vous avez un exemple d'une serre. Donc on a reçu l'autorisation du permis de construire cette année. Là, c'est un projet de serre dans le cadre du Grand Paris qui va se faire au-dessus d'une gare. Donc, c'est l'entrée d'une gare de métro. Voilà. Et puis là, c'est un autre projet à Épinay-sous-Sénart aussi de serre maraîchère en milieu urbain. Et en fait, c'est aussi une vocation pédagogique, ces serres-là. Parce que les citadins aujourd'hui, alors il y a quelques décennies, tout le monde avait dans son entourage, dans sa famille, un agriculteur, quelqu'un qui mettait la main dans la terre, quelqu'un qui savait qu'une plante, ça poussait, que ça avait un cycle, etc. Aujourd'hui, cette connaissance-là, elle a tendance à disparaître. Et du coup, c'est pas mal de ramener du sens aussi en ville et ça peut faire venir du public dans ces serres. Sur l'agriculture urbaine, on a aussi développé ce prototype qui est un carrousel de culture. Donc on est sur cette fameuse hydroponie où vous avez de l'eau qui coule dans les gouttières. Et l'intérêt de chercher à cultiver en hauteur, c'est qu'en ville, le mètre carré est très cher et en concurrence avec l'immobilier. Donc du coup, pour avoir des projets rentables d'un point de vue économique, on est obligé d'aller chercher la troisième dimension. Sauf que si on va chercher la troisième dimension, ces plantes-là, elles n'ont pas de lumière. Donc si elles n'ont pas de lumière, elles ne se développent pas. Donc on a décidé de les faire tourner. Donc comme ça, l'idée, c'est de ne pas être dans un milieu fermé avec des LED, mais principalement d'essayer de profiter de la lumière naturelle et gratuite. Dernier point sur les colorants végétaux. Alors je vous ai amené quelques échantillons. Donc aujourd'hui, en Poitou-Charentes, voilà les plantes emblématiques qu'on cultive. Alors quand je dis on cultive, en fait, elles sont sous contrat avec des agriculteurs. Donc c'est des plantes tinctoriales, des plantes colorantes qui ont des substances colorantes à l'intérieur. Donc là, vous avez un exemple de plante. On peut récolter les gaines des plantes. Donc ça, c'est du sorgho des teinturiers. C'est une variété particulière qui a des gaines qui sont très colorées en rouge. Je vous ai amené ce que ça donne une fois broyé, le sorgho. Oui, vous pouvez faire circuler. Donc ça, c'est le sorgho broyé. Je vous ai amené un exemple où ce n'est pas la gaine, mais la fleur qui est utilisée. Donc là, c'est des fleurs de Coréopsis. Donc là, beaucoup de nos parcelles sont du côté de Niort. Là, un autre exemple un peu plus intriguant, parce qu'effectivement, c'est les racines. Et ça, c'est les racines de garance. Donc la garance est très connue, mais donc c'est les racines qui sont utilisées pour faire du rouge. Et là, c'est l'exemple d'une plante plus exotique et un peu plus connue aussi, c'est le henné. Donc là, c'est les feuilles. Donc vraiment, les végétaux peuvent offrir des propriétés tinctoriales selon les différents organes. Ça peut être variable. Donc voilà les différentes plantes qu'on cultive principalement dans la région. Ces plantes-là, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait deux types, généralement, d'extraits. Soit des extraits colorants qui sont solubles et qui vont nous permettre de faire de la teinture, notamment de la teinture textile. Soit on va fixer ces molécules colorantes sur un support, et à ce moment-là, on va parler de pigments et non plus de colorants. Et donc, par exemple, un pigment, c'est ce qui va nous permettre de travailler avec une peinture et arriver à avoir une surface qui va être opaque. Donc là, je vous ai apporter encore des exemples. Donc là, vous avez un exemple. Alors, on va commencer par celui-là. Un exemple de ce qu'on fait avec la garance. À gauche, à ma gauche, c'est la garance sous forme colorant et à droite, sous la forme pigment. Alors, les couleurs qu'on obtient vont dépendre évidemment du végétal. Donc, finalement, comme le vin, on pourrait raisonner en termes de terroir. Il y a des terroirs qui vont développer certaines substances dans les plantes. Il y a des années où on va avoir un certain climat qui va aussi influencer la couleur. Donc ça, les industriels, ils n'aiment pas trop parce que ben, on se retrouve avec des couleurs qui peuvent varier d'une année sur l'autre. Alors du coup, on est obligé de faire des assemblages. Hein, donc c'est pour ça que je parle de vin. Où on est obligé, pour des industriels qui veulent une couleur conforme d'année en année, et ben, en mélangeant différents lots, on arrive à leur produire la couleur qui les intéresse. Voilà. Donc là, vous avez un pigment de solidage. Voilà, qui fait un beau jaune. Et après, une fois qu'on a ces colorants ou ces pigments, l'intérêt, c'est de développer avec des partenaires justement d'entreprise, de développer des applications. Donc, des applications les plus classiques, ça va être le textile. Donc là, je vous ai amené deux exemples d'applications textiles. Une qui a été teinte avec... alors, je ne sais pas, c'est en jaune, donc ça va être soit du solidage, soit du genêt. Soit du réséda, donc il y a trois couleurs qui nous permettent d'avoir le jaune. Quand je l'ai pris hier, on n'a pas su me dire ce que c'était. Par contre, celui-là, on a pu me dire que c'était fait avec du châtaignier. Donc on a aussi des ressources en bois. Voilà. Hop, ça doit être... Oui, c'est cette diapo-là. On a également des applications. En ce moment, on développe beaucoup les bioplastiques. Parce que donc, c'est à la mode d'essayer de changer les plastiques traditionnels par du biosourcé. Donc, pour aller jusqu'au bout de la démarche, quand il s'agit de teinter le matériau, ben, essayons de le teinter avec quelque chose de propre, donc des colorants végétaux, minéraux, ou voire d'origine animale, comme la cochenille. Et donc là, vous avez un exemple de plastique, de bouteille, qui pourrait servir un jour de contenant pour un shampoing, par exemple, qui a été teinté avec, là, cette fois, c'était du... c'est le bleu d'indigo, donc c'est l'Indigofera tinctoria, celui-là. Et ça, c'est pas une culture chez nous. Les seules plantes qui font du bleu chez nous, c'est le pastel ou le polygonum. L'Indigofera, généralement, il vient d'Inde. Voilà. Et puis, on peut avoir des applications cosmétiques. Donc là, je vous ai mis un exemple de crème. Mais on a évidemment développé toute une gamme de maquillage type rouge à lèvres. Notamment, il y a une gamme Chanel qui utilise nos produits, etc. Également, teinture capillaire. Donc ça, c'est vraiment à la mode en ce moment d'avoir des teintures capillaires qui sont sourcées par des colorants végétaux et non pas des colorants chimiques. Et donc évidemment, nous, ça nous oblige après à tester quels sont les colorants qui vont être le plus favorables à cette application-là. Et quand on extrait un colorant, donc quand on met la plante sèche avec un solvant qui est généralement un mélange d'eau et d'alcool, on fait chauffer tout ça, il y a un pH donné et après on en sort des colorants. Selon le pH, selon la proportion de solvant, etc., on va avoir des rendements différents, on va avoir des couleurs différentes avec la même plante, donc on peut aussi faire varier là-dessus. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a une magnifique couleur, si quand vous faites une teinture textile, vous lavez votre linge deux fois et il n'est pas solide au lavage, ça ne marche pas. Donc on a chez nous un protocole de test pour éprouver, simuler une quantité de lavage pour regarder, et on note les colorants selon leur aptitude à résister au lavage. Donc on leur donne une note de solidité lavage. On leur donne aussi une note de solidité à la lumière. Donc ça, par exemple, je vous montre comment c'est réalisé. Donc on a ce qu'on appelle une bandelette étalonnée. Alors je ne sais pas si vous voyez tous très loin, je pourrais vous la faire passer. Donc les couleurs qui sont à ma droite là sont les couleurs témoins. Et à gauche, une fois qu'on a passé l'échantillon sous une lampe UV pendant une certaine quantité d'heures qui simule une durée de vie d'un produit, eh bien on va pouvoir noter si le produit, là il est vraiment pas bon et là il est parfait en termes de solidité lumière. Voilà. Et je vais essayer d'aller vite. Hop. Donc ça, c'est les équipements en laboratoire qui nous permettent de faire ces tests. Et ensuite, on a développé... donc nous, le Crit Horticole, on est plutôt sur l'aspect R&D. Il y a une entreprise qui a essaimé du CRIT il y a maintenant 15 ans, qui s'appelle Couleur de Plante, dont je vous ai mis le logo là, et qui maintenant développe ça à une échelle industrielle. Donc elle a des agriculteurs avec lesquels elle a des contrats, qui chaque année lui produisent des plantes. Elle a un contrat avec un extracteur qui lui extrait les colorants, et après elle les commercialise auprès des différentes boîtes qu'on a évoquées. On peut faire aussi, au départ, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les colorants végétaux sont nés, cette activité-là est née chez nous, pour un objectif de restauration à Saint-Savin, de l'abbaye de Saint-Savin, qui avait des fresques qu'il fallait récupérer. On a travaillé pas mal aussi récemment avec la tapisserie d'Aubusson. Enfin, on a pas mal de projets sur ces aspects-là. Je voulais vous, comme on m'a expliqué, le public qui était dans la salle, je me suis permis de vous dire qu'on avait un fond documentaire, alors qui est quand même assez technique, mais ça peut-être des fois vous arriver d'avoir des demandes assez techniques. Donc on a des ouvrages, on a des thèses, des brevets, des publications scientifiques, des revues spécialisées. On est prêt à ouvrir à la demande, hein, bien sûr, pas comme ça. On est prêt à l'ouvrir en consultation sur place, s'il y avait une demande. Ça nous arrive aussi forcément de côtoyer des personnes qui publient des ouvrages de référence. Et si vous vouliez un ouvrage vraiment de référence pour les colorants végétaux, c'est le livre de Dominique Cardon, qui est chercheur au CNRS, donc qui est vraiment la référence dans cette thématique-là. Et là, elle vient de sortir un livre très différent. Son premier livre, enfin non, elle n'en a pas sorti qu'un, mais ce livre-là, on est plutôt sur la composition chimique des colorants et surtout la dimension historique, comment ils ont été fabriqués. Et le dernier livre qu'elle a sorti, c'est plutôt sur une histoire, l'histoire d'un teinturier occitan dans les années au XVIIIe siècle qui s'appelle Antoine Janot. Et donc, elle suit ce personnage-là pendant tout son ouvrage. Voilà. Et dernière diapo, c'était pour vous dire, en termes d'intervention, ce qu'on a déjà fait, donc potentiellement on est capable de faire, c'est des participations à des conférences. On a même organisé nous-mêmes des journées techniques vraiment spécialisées sur les colorants végétaux, et même en 2011, un congrès international qui a réuni 500 conférenciers sur une semaine à La Rochelle. On fait de l'appui à la construction. On a fait au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle, qui nous avait sollicité, on les a aidés à construire un parcours de visite sous l'angle des colorants végétaux dans une partie de leurs expositions. Donc il y a un livret qui a été réalisé à ce moment-là. On a aidé aussi l'aquarium de La Rochelle à monter une exposition sur le thème des colorants végétaux à l'aide des coquillages qui permettent de faire la pourpre. On a intervient aussi auprès du lycée Jamin, qui est le lycée de la broderie à Rochefort. Et donc, on leur teint parfois des textiles pour qu'ils puissent faire leurs créations. Et puis, au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle aussi, ils sont venus nous voir parce qu'ils avaient envie de proposer à leur public des ateliers de teinture végétale. Donc, on a formé 2-3 personnes chez eux pour faire des ateliers de teinture végétale et proposer ça en animation. Voilà. Je vous remercie.
Beaucoup, c'était très enrichissant, très intéressant. Voilà, on va laisser la parole aux deux autres personnes. Juste par rapport au projet que vous pourriez vous mettre en place, ça m'a fait réfléchir. N'hésitez pas à contacter les établissements agricoles autour de vous ou les horticulteurs. Voilà, ça peut être aussi des pistes pour réaliser des activités. Voilà, donc je ne sais plus laquelle. Donc ça va être Via Nature.
Absolument. Bonjour, Caroline Menissier, je suis chargée de communication à l'association Via Nature. Alors je vais essayer de faire vite pour vous présenter l'association. Donc nous sommes une association de protection de la nature, nous travaillons dans le département de la Vienne. Nous faisons partie de notre fédération nationale est France Nature Environnement, et au niveau plus régional, France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine et Poitou-Charentes Nature, pour l'ex-région Poitou-Charentes. Au niveau des activités que nous menons sur le territoire de la Vienne, nous réalisons un travail à la fois d'études, d'inventaire du patrimoine naturel, c'est-à-dire de la faune, de la flore, qui est le thème de la journée. Donc ça, c'est un gros travail qui est réalisé par mes collègues qui sont des scientifiques, des naturalistes, donc des biologistes formés pour cela. Nous menons aussi un gros travail d'information du public, de tous les publics, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, ainsi que des missions de protection de la nature et de l'environnement qui sont donc dans nos statuts. Et je vais aller directement au cœur du sujet d'aujourd'hui, puisque en l'occurrence nous travaillons Sur la thématique de la botanique, puisque nous avons au sein de notre équipe salariée, donc je vous parlais de mes collègues qui sont naturalistes, deux botanistes qui mènent à la fois des inventaires de la flore, donc c'est-à-dire très concrètement qui vont sur le terrain, qui vont dans les milieux naturels de la Vienne pour étudier les végétaux que nous avons, qui mènent également un travail cartographique de ces milieux naturels. Et tout ce travail scientifique qui est réalisé sur le terrain va servir ensuite à la fois à mieux connaître notre patrimoine naturel et donc logiquement pour nous, associations, de pouvoir ensuite être amenés à conseiller des collectivités ou des propriétaires pour faire en sorte de mieux gérer ce patrimoine naturel, de ne pas le détruire surtout, et d'en prendre soin. Mais nous avons donc ce volet de sensibilisation et d'information de tous les publics qui est au cœur de notre activité et qui est notamment mené par ma collègue animatrice, donc c'est la seule animatrice de notre structure, Hélène Lepage, qui intervient auprès de toutes les structures du département, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, les bibliothèques, les collectivités, et donc qui va travailler à faire connaître ce patrimoine naturel. Alors elle a la chance en plus d'avoir une double formation, à la fois animatrice, donc pédagogique, et aussi de biologie, et en particulier de botanique. Donc, ce qui est assez intéressant pour la thématique d'aujourd'hui. Donc, elle s'y connaît très bien. Alors, il nous arrive aussi également à la demande de créer des supports de communication, de sensibilisation, que ce soit des panneaux, des expositions, et notamment sur le thème des végétaux. Donc ça, c'est aussi une activité que l'on mène au sein de notre association. Et je vais pouvoir vous en donner quelques exemples. En l'occurrence, et ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, donc nous mettons à disposition gratuitement des structures qui nous en font la demande, donc des bibliothèques, des écoles, on reçoit beaucoup de demandes aussi des mairies, pour des expositions. Alors là, en l'occurrence, les expositions que je vous présente ne sont pas des expositions dédiées spécifiquement aux végétaux, mais elles en parlent, ça fait partie de notre patrimoine naturel. Alors, en commençant par l'exposition qui se trouve à droite sur la biodiversité des bords de chemin, qui a été réalisée suite à deux projets que nous avons menés sur l'étude de la biodiversité à la fois des bords de route, pour aider à conseiller les collectivités sur une meilleure gestion de ces bords de route, pour favoriser donc la biodiversité à la fois végétale, on avait beaucoup travaillé aussi sur les insectes, et on a également mené un projet sur la biodiversité des bords de chemin, alors là plutôt communaux, pour justement conseiller les collectivités sur les aménagements, l'entretien, un entretien qui soit plus favorable, bien sûr, à la biodiversité, dont cette exposition en parle, et à plusieurs entrées, notamment sur les types de milieux qu'on peut croiser quand on se balade, quand on se promène sur les chemins communaux. La seconde exposition, La nature à notre porte, a été réalisée tout récemment dans le cadre d'un projet qui vise à faire sortir les personnes dans la nature. Alors on travaille beaucoup avec les jeunes, en particulier en ce moment avec les maternelles, mais c'est un projet qui s'adresse à tous les publics pour faire en sorte qu'on observe davantage la nature, qu'on regarde peut-être un petit peu différemment et un petit peu mieux la nature. Et donc cette exposition, elle se veut minimaliste avec un panneau, une photo d'une espèce en particulier et une phrase descriptive de cette espèce. Donc on est sur des espèces plutôt communes, mais qu'on ne connaisse pas forcément ou qu'on ne regarde pas suffisamment. Donc ces deux expositions, elles sont disponibles à l'association, donc c'est un emprunt gratuit. Il suffit de se renseigner donc, sur le site internet de Vienne Nature. On a un calendrier de réservation de cette exposition, donc il suffit de voir si les expositions sont disponibles pour pouvoir ensuite nous faire une demande d'emprunt. Donc ça, c'est très facile. Alors, je vous parlais des activités de sensibilisation, d'information que nous menons auprès de tous les publics. Donc ça, ce sont effectivement des animations réalisées ou des conférences réalisées par mes collègues, et en particulier ma collègue animatrice, donc, qui intervient pour tous les âges, donc sur les sujets de... Alors, elle a des compétences diverses, donc elle pourrait intervenir sur beaucoup de sujets, mais sur le sujet des végétaux, on va être à la fois sur la connaissance des plantes, sur la découverte des plantes, sur les intérêts des plantes, sur l'art aussi, le land art, qui est aussi une forme d'animation qu'elle mène régulièrement. Et vous avez quelques photos donc de sorties botaniques qu'on mène, d'animations qu'on mène sur ces thématiques. Alors, à savoir que dans notre association, donc, nous avons des salariés qui sont spécialistes de ces sujets, donc de la botanique. Nous avons également des bénévoles qui se forment à la botanique. Certains donc, sont débutants, d'autres très éclairés. On a de très bons botanistes bénévoles. Et donc nous menons également des formations. Donc chaque année, on a une formation dédiée à nos adhérents sur le thème de la botanique. Mais nous intervenons également à l'Université de Poitiers sur ce sujet pour former les étudiants. Ça, ce sont des interventions que nous pouvons tout à fait réaliser. Et pour terminer, nous avons également un espace documentaire à l'association assez riche, donc avec des ouvrages certes spécialisés. Là, sur la botanique, on a pas mal de choses, des flores en particulier pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient se former à la botanique, et des ouvrages aussi plus généralistes sur la nature et l'environnement. Donc c'est consultable sur place dans notre association. En l'occurrence, c'est empruntable pour nos adhérents. Mais si vous avez besoin de conseils sur des livres sur la botanique, on est là bien sûr pour vous renseigner. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et avec, en l'occurrence, le contact qui était là. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter peut-être à la fin.
Bonjour à tous. Donc moi, c'est Claire Touchard. Je suis coordinatrice pédagogique au sein d'une association qui s'appelle le CINEV et qui est labellisée CPIE Seuil du Poitou. Donc l'association a été créée en 1985, on est sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, on a été créée au départ en lien avec la réserve naturelle du Pinail, pour ceux qui connaissent, l'idée étant au début d'amener le public à mieux connaître les enjeux de cette réserve et donc à mieux respecter aussi le lieu. Et puis petit à petit, nos activités se sont élargies et on a donc intégré en 2004 un réseau national qui s'appelle le réseau des CPIE, les Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement. C'est un réseau qui comprend à peu près 80 associations sur le territoire français et qui ont tous à peu près les mêmes missions, c'est-à-dire sensibiliser, éduquer à l'environnement toutes sortes de publics, mais également accompagner les démarches de transition écologique, que ce soit pour les collectivités, les particuliers, les entreprises, etc. Voilà, donc notre territoire d'action est plutôt situé sur le nord du département, à partir de l'axe Poitiers-Chauvigny. Nous avons 80 adhérents, grosse entreprise en fait. 80 adhérents à l'association et nous sommes 7 salariés, c'est beaucoup plus modeste. Divisé en deux secteurs, il y a un secteur plutôt ce qu'on appelle l'espace info-énergie, donc avec un conseiller info-énergie qui est là pour aider les individuels dans leur démarche d'amélioration d'économie d'énergie au sein de leurs habitations. Et puis un secteur animation et accompagnement, donc avec 4 collègues qui font diverses activités pour sensibiliser et accompagner le public sur les démarches de transition écologique. Alors, on m'a demandé donc aujourd'hui de vous parler plus précisément de ce qu'on pourrait faire sur la thématique des plantes. Donc, on intervient, comme je vous le disais, auprès de tout public, mais aussi dans divers lieux. Notre but, en fait, est d'essayer de ramener le public à réapprécier la nature, tout bêtement, à relier un lien avec elle, à être de nouveau en contact, et puis à savoir la connaître, mais aussi l'utiliser. Donc les animations, elles peuvent se faire en forêt, elles peuvent se faire sur les sentiers, elles peuvent se faire dans les parcs et jardins, elles peuvent se faire sur la réserve naturelle, elles peuvent se faire en salle, elles peuvent se faire en fait là où on peut trouver des plantes. Voilà. Donc ça peut se faire dans la rue également. Les animations sont très diverses, on fonctionne plutôt sur un esprit de collaboration avec la personne qui demande, donc en général, on nous demande une intervention sur un thème et puis on discute ensemble du type d'intervention qu'on peut mener. Donc pour vous donner un exemple, on a une collaboration très forte avec le Grand Châtellerault et en particulier le réseau des médiathèques qui nous permet comme ça, nous, d'atteindre un public auquel on n'a pas forcément accès directement. Et donc l'idée, c'est que quand une bibliothèque ou une médiathèque du territoire a un besoin particulier sur une thématique environnementale, ils nous appellent et puis on voit ensemble quel type d'intervention on peut faire. Éventuellement, s'il y a des possibilités ou si on connaît des expositions, par exemple, qui peuvent être en lien avec ce thème. Et puis on monte ensemble en fait, un programme d'activité. Donc voilà, alors je vous ai mis quelques exemples de ce qu'on pourrait proposer comme activité. Alors bien sûr, il y a les sorties sur le terrain, un peu comme ce que fait Vienne Nature. Ces sorties sur le terrain, ça peut être juste de la détermination de plantes, comme ça peut être juste une balade, juste pour retrouver du plaisir à être dans la balade. Dans cette balade, on peut y faire par exemple de la musique verte, donc des créations, c'est-à-dire on amène le public et en particulier les enfants à comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser la plante, avec tout un discours autour aussi sur comment la respecter et comment éviter de la massacrer. Donc ça peut être voilà, autour de musique verte, de création de jeux naturels, ça peut être donc des jeux de reconnaissance ou des jeux d'approche des plantes. Il y en a un qui me vient à l'esprit qu'on appelle Mon ami l'arbre, qui permet en fait de rentrer en contact avec un arbre d'un point de vue sensoriel, donc par le toucher essentiellement, puisqu'on va rendre aveugle la personne. Et l'objectif de ce jeu, c'est à la fois de se rendre compte que pour reconnaître une plante, oui, on peut prendre un livre et déterminer exactement et avoir une approche très scientifique, mais on peut aussi faire confiance un petit peu plus à nos sens. Autrefois, les personnes n'avaient pas toutes des livres de botanique et n'avaient pas toute la connaissance pour savoir décrire une plante, mais elles savaient les reconnaître quand même par d'autres systèmes. Donc c'est aussi relier ce lien sensoriel qu'on peut avoir avec la nature et qui est tout aussi important que le lien scientifique. Voilà. Et puis, à travers ce jeu, il y a aussi une approche très humaniste parce qu'on va apprendre en fait, à se faire confiance les uns les autres. On va apprendre à respecter, on va apprendre à approcher doucement, etc. Donc, avec ce jeu de nature et avec ces plantes, eh bien, en fait, on va aussi apprendre à être un meilleur citoyen, par exemple. Voilà. Alors après, on a aussi donc, des ateliers très pratico-pratiques parce qu'il faut mettre en action les gens et ils sont demandeurs de ça. Donc, on peut faire de la cuisine sauvage, par exemple. Alors, ça peut être... au départ, on part avec le public si on a la possibilité d'avoir accès à un chemin pour aller reconnaître les plantes sur le terrain, les ramasser avec eux. Mais quand ce n'est pas possible, on se dit aussi que c'est trop bête de priver les gens de ce plaisir de cuisiner et de cette curiosité des plantes. Donc on apporte les plantes et on se déplace dans n'importe quel lieu avec les plantes pour faire l'atelier de cuisine. L'idée derrière, c'est... c'est pas forcément de dire que tout le monde va pouvoir d'un seul coup ressortir à l'extérieur et puis aller cueillir les plantes, parce qu'il faut se méfier aussi. Il y a plein de façons de cueillir. Mais c'est plutôt de dire, autrefois, il y a longtemps, on savait utiliser ces plantes-là, on savait se nourrir avec, elles avaient une importance. Et dans le futur, elles en auront sûrement une encore aussi très importante. Et il faut qu'on puisse retrouver cette connaissance. Voilà. Donc c'est retrouver du plaisir à cuisiner, retrouver du plaisir à oser des choses qu'on n'aurait pas osé, avec tout un cadre de sécurité derrière, bien sûr, qu'on met en avant. Après, donc, comme ma collègue a pu le dire, il y a aussi tous les aspects artistiques. Donc là, on a parlé de musique verte, mais évidemment, il y a le land art, il y a plein d'autres choses qui peuvent qui sont tout aussi importants parce qu'il y a un besoin de créativité, d'imagination et qu'on peut énormément exploiter autour des plantes. Les bestiaires, les choses comme ça, enfin, c'est des choses très, très... avec des approches très pédagogiques très intéressantes et qui renouent vraiment le public avec la nature. Il n'y a rien de mieux que de se balader sur un sentier pour décrire le pissenlit tout en racontant l'histoire qu'il peut y avoir derrière. Voilà, l'histoire de la dent de lion, l'histoire de pourquoi est-ce qu'on fait pipi au lit, etc. Voilà, alors après, effectivement, nous, on a une spécialiste aussi du jardinage au naturel au sein de l'association. Et puis, on a une exposition, donc je vous en ai apporté un exemplaire, vous pourrez... qu'on peut mettre à disposition. Alors, c'est une exposition sur le jardinage au naturel, mais qui nous sert de support pédagogique. Donc, on la prête, mais on en a aussi énormément besoin, nous, dans nos cadres pédagogiques. C'est un prêt gratuit, à la condition qu'on n'en ait pas besoin, nous, derrière, pour des animations... quelconque. Voilà. Et puis récemment, donc, il y a une personne aussi au sein de notre association qui s'est formée à la création de macérats, donc l'utilisation des plantes dans les cosmétiques, par exemple, ou les produits médicinaux. Voilà. Voilà, donc quelques petits exemples de photos d'animation qu'on peut faire. Ici, alors en haut à... Donc ici, en fait, vous avez des enfants avec des parents qui sont au jardin d'essence de Poitiers et qui sont en train de faire une activité sensorielle sur la découverte des différentes couleurs qu'on peut trouver dans les prairies fleuries. Ici, vous avez donc des enfants qui sont dans la création artistique. Alors, on parle de land art, qui peuvent être des choses un petit peu plus sophistiquées, mais on peut aussi simplement faire des cartes colorées. Ici, vous avez un enfant qui est en train de regarder, d'essayer de déterminer la plante dans une rue, juste au pied de chez lui. Ça, je vais vous en parler après. C'est dans le cadre d'une science participative qui s'appelle Sauvage de ma rue. Et puis ici, donc vous avez le résultat d'un atelier de cuisine sauvage, et juste avant la dégustation. Voilà, donc quand Christine m'a demandé de réfléchir à ce qu'on faisait autour des plantes, j'ai pensé aussi à aux sciences participatives dans lesquelles on est intégré. Et qui sont en lien avec des plantes. Donc, à l'heure actuelle, on en a 3 en action. Alors, juste un petit mot peut-être sur les sciences participatives, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Le principe, c'est d'amener le tout public, le grand public, à essayer de reconnaître des choses dans la nature qui vont aider les scientifiques à alimenter leur base de données. Alors, quand je dis des choses, c'est parce que en fait, ça peut être une science participative en lien avec les végétaux, mais ça peut être aussi avec le monde animal. Donc nous, on participe à 3 sciences participatives. L'objectif, c'est de les faire connaître, pour nous, l'objectif, c'est de les faire connaître au grand public, de leur expliquer comment est-ce qu'ils peuvent y avoir accès, et donc ensuite de les laisser en autonomie. Donc on leur donne des clés au départ, et puis ensuite, ils sont autonomes. Donc il y en a une première, un carré de biodiversité, ça c'est une science participative qui a été créée par le réseau des CPIE. Le principe, c'est de créer un carré dans son jardin, dans un lieu public, n'importe où, qu'on ne va pas tondre. Voilà, qu'on laisse en liberté. Et ensuite, d'amener le public à aller observer ce qui va pousser, ce qui va commencer à vivre à l'intérieur, et de faire le lien du coup avec différentes sciences participatives, par exemple celle des papillons, celle sur les plantes, et voilà, il en existe plein, et on leur montre en fait comment est-ce qu'ils peuvent choisir la science participative qu'ils ont envie de suivre, et comment est-ce qu'ils peuvent revenir régulièrement sur ce carré pour faire leurs observations. Sauvage de Marus, c'est une science participative qui amène le public à recenser les plantes sauvages qui poussent dans la rue. Donc là, nous, on accompagne en fait le public à la reconnaissance des plantes. On fait des balades dans la rue, voilà, et puis on montre comment, quelles sont les différentes plantes qui poussent, comment est-ce qu'on peut les reconnaître. Et puis, on explique encore une fois au public comment est-ce qu'ils peuvent rentrer leurs observations plus tard sans nous sur les sites internet qui existent. Et puis, on explique aussi comment est-ce que ces plantes ont pu arriver là. En quoi les gestions différenciées maintenant mises en place par les collectivités peuvent avoir un bon bénéfice. Donc ça aide aussi les collectivités à justifier leur changement de gestion auprès du public, ce qui n'est pas toujours accepté. On a parfois du mal à accepter que le pissenlit pousse au milieu de notre trottoir. Voilà. Et puis la toute nouvelle science participative à laquelle on vient d'intégrer, c'est Leak and Go. Alors, c'est une science participative en lien avec la qualité de l'air. L'idée étant d'amener le public à aller identifier sur des arbres très précis, dans un protocole très précis, des lichens, parce que les lichens s'alimentent des différents gaz qui sont dans l'air et qu'en fonction de leur espèce, ils ne s'alimentent pas tous des mêmes gaz. Donc ça va permettre comme ça de savoir quel gaz est dans l'air autour de cet arbre-là et donc de pouvoir faire une cartographie de la qualité de l'air sur un territoire. Voilà, ça c'est un projet qu'on a avec Grand Châtellerault en lien avec l'Université de la Sorbonne. Et voilà, on va commencer à créer des petits groupes de personnes qui vont aller chercher les lichens. Voilà. Donc pour pouvoir nous contacter, ben voilà nos coordonnées. Vous avez de toute façon un petit programme de nos programmes d'activité avec nos coordonnées et puis Christine qui les mettra. Et on est à votre disposition.
Merci beaucoup. Donc merci à tous les trois. Effectivement, donc vous retrouverez les coordonnées du Yen Nature et des CPIE de la région pour ceux qui n'habitent pas à proximité de Vouneuil-sur-Vienne. Il y a également des CPIE à Marennes-d'Oléron, enfin dans notre lieu, chacun a leur spécificité. Donc n'hésitez pas à les contacter, je suis sûre qu'ils proposent aussi énormément de choses intéressantes. Et puis comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas tout explorer, mais c'est vrai que l'aspect culinaire, l'aspect land art aussi, enfin, c'est des choses intéressantes, et bien sûr les sciences participatives. Pour continuer, donc je vais appeler Marie-Christine Legendre, voilà, à nous rejoindre, qui va effectivement, pendant une petite demi-heure, nous présenter les activités qui reviennent à ce qui a un petit peu été dit et qui vont nous amener au repas. Bonjour. Vous avez un PowerPoint ou... Oui, bah, installez-je. Voilà, mon collègue va venir. Oui, ben bah, non plus.
Non, mais c'est bon. Avec un carton, je vais finir la devise, c'est bien. Mmh. Hein? Mmh.
Donc, tout a l'air de fonctionner. Donc là encore, vous retrouvez dans le document ressources les présentations des différents ateliers que Marie-Christine Legendre peut proposer. Voilà. Et puis également, il y a les coordonnées d'autres personnes qui font des choses similaires, mais plus dans les départements de Charente, Charente-Maritime. Voilà, j'ai pensé aux personnes qui sont plus éloignées. Voilà, donc Marie-Christine.
C'est parti. Bonjour tout le monde. Oui, ça marche, en plus c'est super. Donc je m'appelle Marie-Christine Legendre et je suis animatrice d'ateliers avec les plantes. Donc la plante, elle est vraiment au centre de mon activité. Mon activité se présente en trois volets. Donc la peinture, l'encre et l'impression de plantes, les cosmétiques naturelles et la cuisine. Alors, j'essaie d'avancer. Donc peinture végétale, on a déjà abordé un petit peu le sujet précédemment, mais bon, je vais continuer un petit peu. Donc les peintures végétales, on en fait avec les plantes fraîches, les plantes sèches. On peut prendre aussi des baies, des racines, des écorces, entre autres. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'œillet d'Inde, parce que c'est une couleur profonde, en fait. Donc, en fait, on prend c'est un exemple, hein, après, il y en a plein d'autres, mais c'est l'œillet d'Inde, la plante fraîche. La méthode, là, que j'ai utilisée, c'est une méthode à chaud, parce qu'on a plusieurs méthodes pour extraire des pigments colorés de la plante, donc à chaud, à froid, et puis aussi en fermentation. Bon, là, c'est à chaud. Donc, la plante fraîche, je la fais cuire. La fait bouillir dans de l'eau de source parce qu'elle est douce. Ensuite, je filtre. Je sais pas si je filtre. Je peux tout rester comme ça. Et puis, quand le liquide est bien chaud, j'y mets deux éléments, un basique et un acide, hein, qui fait que ça va faire une précipitation. Donc, en fait, c'est ce qu'on aperçoit là-bas, hein, sur le bocal jaune. Ça fait comme une grosse mousse, en fait. Et quand l'opération se fait, la précipitation va capturer la couleur qui est dans l'eau, va la solidifier, et comme elle va se solidifier, ça va retomber au fond du pot. Autrement dit, on a un liquide chaud dans lequel j'ai mis deux éléments, donc la lin, on ne peut pas le nommer, puis la bicarbonate de soude. Cette précipitation donc, va vraiment alourdir après donc, le colorant, le solidifier, qui tombe au fond du pot. Donc on laisse au fond du pot quelques temps, ça peut être une journée comme 3 heures, ça dépend les plantes. Et on obtient après des laques. Donc là, la laque, en fait, quand le liquide est froid et que la peinture est tombée au fond du pot, il faut bien qu'on récupère la peinture, parce qu'elle est solide. Mais au fond du pot, il y a la solidité, et au-dessus, il y a le liquide encore coloré. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on prend des pots avec des bouts de tissu, et on filtre pour récupérer ce qu'il y a au fond du pot. Donc là, on obtient justement cette laque qu'on aperçoit là. Donc là, c'est la prêle, par exemple. Après, on a le troène, la baie de troène. Et du coup, on laisse s'écouler. Et au bout d'un moment, on obtient vraiment une laque qui devient donc la peinture. Ça, c'est très basique. Hein. C'est vraiment ce que j'apprends dans mes ateliers avec beaucoup d'enfants, les enfants en particulier, mais même les adultes, hein, ils participent aux ateliers. Mais ce que je propose là, sur ce PowerPoint, c'est vraiment très simple, très très simple, pour que ça soit à la portée de tout le monde. Donc c'est vraiment les enfants de la maternelle, hein, jusqu'après les adultes, il n'y a pas d'âge. Hein. Et donc j'interviens aussi dans pas mal d'établissements, notamment des écoles. Bon, après, c'est les particuliers également, la petite parenthèse, voilà. Donc une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, voilà. Donc c'est un exemple d'atelier. Là, enfin, on voit le. Comment ça marche ? Ça fait ça. Là, le filtre. Donc là, il y avait la cuisson de la plante après qu'on a filtré. Bon, là, il y a des petits essais, voilà. Et puis après, on les met en pot. Alors après, en pot, eh bien, on peut décider d'avoir une peinture très liquide. Dans ces cas-là, on ne la laisse pas filtrer trop longtemps. Et auquel cas, si on veut aussi avoir une peinture beaucoup plus solide, hein, dans ces cas-là, on la laisse filtrer beaucoup plus longtemps. Et du coup, la pâte elle reste sur le filtre. Bon, ça, c'est des exemples de couleurs. Donc là, on voit encore des ouvrages, voilà, des essais, des gens qui participent aux ateliers. Là encore, on a bien des couleurs assez jolies, assez claires. Alors après, bien sûr, on y ajoute certains éléments pour que la couleur soit plus intense et qui perdure dans le temps aussi. Ça, après, c'est des manipulations un peu plus complexes, mais bon, qui peuvent se faire avec les enfants également. Donc c'est quand même de très jolies couleurs, je trouve. Et les enfants arrivent toujours à me faire des couleurs en plus inattendues avec leur mélange. Donc c'est après, ces couleurs-là, elles peuvent être appliquées sur du papier, sur du bois, sur voilà, des supports différents. Une fois qu'on a filtré la peinture, on a récupéré la laque, comme je vous ai montré tout à l'heure, il reste parfois encore des jus encore très forts en couleur. Et au lieu de le jeter, on récupère ce jus et on fabrique de la pâte à papier avec. Autrement dit, tout est recyclé. Les enfants, ils apprennent à recycler le papier. Donc, on a des vieilles chutes de papier qu'on garde. On met dans une bassine, dans un pot, et on verse le jus coloré qui reste de la peinture. Et là, ils font de très, très jolies pâtes à papier. Alors là, ils avaient incrusté un petit peu de végétaux dessus. Mais voilà, ça, ce que je veux dire par là, c'est que tout est utilisé, en fait. Il n'y a pas de perte. Après, on arrive sur l'éco-print. On est encore sur de la couleur, mais différente. Ce sont une impression sur du tissu. On retrouve encore la base du basique et acide. Et ça veut dire qu'on utilise un tissu qu'on va préalablement mordancer. On va le préparer avec une substance telle que l'alun pour préparer les fibres à accueillir la couleur du végétal. C'est très subtil. Hein. Donc là, cette méthode-là, elle est très simple aussi. Hein, c'est qu'on applique, on prépare un tissu, deux tissus. Et puis, on pose le végétal sur un des tissus. On repose après un autre tissu par-dessus. On enroule autour d'un bâton et on fait chauffer à la vapeur pendant à peu près 1 heure, 1 heure 20 selon les végétaux. Et on remarque que certains végétaux sont acides, donc ils laissent des empreintes plutôt blanches. Et ça dépend aussi des végétaux, leur tanin également. Mais, et puis les formes, bien sûr. Et ça laisse de très, très belles empreintes. Hein. Et puis voilà. Et après c'est donc ça c'est sur pas mal sur le lin, sur le coton, sur le comment la soie également. D'autres exemples. Hein. Et ça bouge pas à la vache par contre. Une fois que le tissu a été préparé et accueilli à la couleur, après ça ne bouge plus au lavage. Ça fait de très très belles impressions. Pendant que vous regardez ça, je voulais vous faire passer des petites peintures que vous puissiez voir les couleurs que ça peut faire. Je vais vous faire un exemple. Trois peintures. Les noms sont marqués dessus. Là. Il y a du jaune, du bleu et du marron. Alors, je vais mettre des pinceaux dedans. Si vous voulez, je fais passer une feuille. Non, je peux tout séparer. Je passe des feuilles. Alors oui, certaines, des fois, ont des odeurs un peu, comment dire, désagréables, mais bon, vous pouvez observer que c'est quand même une texture... Allez-y, il ne faut pas avoir peur de y aller, hein, c'est assez épais. Si on veut même pousser plus loin sur la peinture, je reviens à la peinture, pardon, si on laisse vraiment sécher la laque qui est sur le filtre, on obtient après un pigment, donc ça se transforme en poudre, hein, et on a le pigment, qui lui se conserve très longtemps aussi. Là, les peintures qu'on fait, là, ça peut durer un an, ou voire même un mois, ça dépend des végétaux. Puis comment est-ce qu'on les conserve ? Il y a aussi le frappé de plantes sur tissu. Ça veut dire que là, il n'y a pas vraiment de cuisson, de chauffe. Là, à droite, on a de l'impression de plantes sur des tabliers, sur des housses de coussins. Donc il y a des plantes qui s'y prêtent un peu plus hein, sur le frappé de plantes parce qu'ils ont une couleur plus intense, comme l'ortie par exemple, hein, qui se prête très très bien au frappé de plantes, hein, la fougère, la feuille de sureau également. Donc une fois qu'on a fait ce frappé de plantes, à quoi ça consiste ? C'est de prendre un tissu, y poser un végétal, hein, et puis remettre un autre tissu dessus ou un papier absorbant, on tapote, on tape un petit peu et ça laisse l'empreinte sur le tissu. Et pour que ça reste sur le tissu, après on fait un autre traitement, ce n'est pas obligatoire mais on peut le faire. Encore une fois, le basique est l'acide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le frappé de plante sur le tissu, on va le tremper dans une eau ferreuse qui est acide, ensuite dans une eau savonneuse qui sera basique, et après on rincera à l'eau et ça ne part pas. Voilà, ça, c'est super. Ça donne de très très jolies choses en plus. Alors, ça en atelier, c'est très simple à faire. Et puis, ce genre d'atelier, que ce soit bon, après peinture, cosmétique ou cuisine, hein, le but, c'est quand même de solliciter les sens. Et je trouve qu'avec le jeune public, entre autres, on a besoin de rappeler cette mémoire qu'on avait avant, de le toucher, le goût, la couleur et l'odeur. Et on s'aperçoit que quand on parle de couleur notamment, ça apaise les enfants. Alors les goûts, bien sûr, hein, on y viendra après, mais le visuel apaise aussi, l'odeur, parce qu'il y a des plantes qui ont des odeurs. Par exemple, avec les maternelles, par exemple, si on fait toucher une feuille de consoude, elle est un peu rugueuse, il y aura d'autres feuilles qui seront, elles, au contraire, très très douces, la feuille de chêne, par exemple, avec leur forme aussi différente. Voilà, c'est juste au niveau des sens, ces ateliers-là permettent de réveiller un peu nos sens. Et puis d'ailleurs, vous êtes tout à l'heure, vous allez avoir la joie de réveiller les vôtres, parce que vous aurez aussi, vous allez vous tester les produits que je vous ai préparés. Donc voilà, ça c'est pour les impressions de plantes. Et la teinture également. Alors là, il y a l'oignon qui teint pas mal. Et puis cette partie-là, bon, c'était une frappée de plantes d'ortie et tout ça. L'oignon teint très très bien. Par contre, là, j'ai mis du curcuma. Ça donne une excellente couleur, mais sauf qu'elle ne dure pas dans le temps. Donc, il y en a qui sont fragiles à la lumière et qui ne durent pas, malgré un brandissage, malgré... Donc, voilà, j'ai quand même mis, parce que ça, faut le savoir. Mais après, sur les plantes tinctoriales, il y en a énormément autour de chez nous. Hein. La tagette, là. Et puis, vous essayez aussi l'écorce de châtaignier, par exemple. Il y a des baies également, il y a les racines. Enfin, il y a énormément de plantes autour de nous qui peuvent servir. On peut essayer l'ortie également. Elle sera moins colorée, mais ça marche aussi. À vos souhaits. Donc, si on est en ville et qu'on a envie de teindre un tissu comme ça pour se faire une petite pochette ou avec les enfants si on veut ou même les amis, on ne sait pas, vous avez de l'oignon chez vous, vous gardez les plures d'oignon, vous les faites bouillir dans de l'eau, vous récupérez, vous filtrez, mettez deux poudres et vous obtenez une très très belle couleur, non seulement en peinture, mais aussi en teinture. On arrive aux cosmétiques. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter des produits que j'ai réalisés pour vous en démonstration. Donc, je vais les passer. Il y a un dentifrice. Hein. Sur chaque contenant, vous allez trouver toutes les matières premières que j'ai utilisées. Vous allez voir que, même au niveau de vos sens, l'odeur, le toucher, parce que là, j'ai mis des petites baguettes comme ça pour que vous puissiez mélanger pour avoir la texture. Bon, après, je ne vous demanderai pas de vous en mettre partout parce que, bon, voilà. Quoique celui-là, vous pouvez. Ça sera le lait corporel. Hein. Il n'y a aucune huile essentielle dedans, donc il n'y a pas d'allergie à avoir. C'est un produit très, très simple à base d'huile. Donc, son but, c'est comme il le dit, hein, c'est comme c'est noté, c'est un lait hydratant. Donc, je vais le passer. Vous pouvez l'ouvrir, en passer sur votre avant-bras si vous le voulez. Allez-y. Alors, ce que je vous présente comme produit cosmétique, c'est vraiment la base la plus simple de ce qu'on peut utiliser chaque jour, le dentifrice, par exemple. Puis là, j'ai fait aussi une crème de visage. Voilà, vous pouvez elle a eu un peu chaud, mais bon. Voilà, et vous sentez, vous allez voir que vos sens vont. Vous pouvez vous en mettre sur le. Il faut remettre le bouchon. Vous enlevez la petite capsule. Comment ? Ah, d'accord. Alors, vos impressions ? Oui. Alors souvent on dit oui, c'est très très gras. C'est pas faux parce qu'on utilise des corps gras tels que le beurre de karité, l'huile de coco, les huiles végétales et aussi la cire d'abeille. Mais la cire d'abeille, j'évite parce que c'est un corps très très gras. Et sur les crèmes de visage, on n'en met pas. Enfin, j'en mets pas parce que c'est comédogène. Ça veut dire que ça provoque, ça bouche un peu les pores et ça provoque des petits points blancs, enfin des noirs, et c'est pas terrible. Donc là, pour la cosmétique, on peut utiliser des plantes fraîches, des fleurs, des feuilles. On peut utiliser des plantes séchées, donc fleurs, feuilles aussi, entre autres. Donc là, je pars d'un exemple. Bon, là, c'est la bourrache, hein, qui est aussi. On peut la faire aussi en infusion, qui est très très bonne pour les peaux matures. Donc là, c'est un exemple. Par exemple, j'ai pris des pétales de rose. Ce que je vous présente, c'est très basique, c'est pour que chacun puisse le faire facilement à la maison, par exemple, ou avec les enfants, enfin, bref. Donc on prend une casserole en inox, on fait comme une cuisson vapeur, et on récupère la vapeur qui est passée à travers le végétal pour récupérer ses propriétés. Cette vapeur va retomber dans un bol, autrement dit... Là, j'ai mis de l'eau chaude, enfin de l'eau, ça va bouillir. À partir du milieu, il y a une passoire qu'on aperçoit ici. La passoire dans laquelle j'ai mis un bol. Et tout autour, j'ai mis de l'eau de. J'ai mis des pétales de rose fraîche. J'ai mis après, donc, j'ai retourné le couvercle, merci. Et puis, ben, je laisse faire. Je mets de la glace dessus pour accélérer l'opération. Et donc, la vapeur retombe dans le bol ici. Et je récupère. C'est un pseudo-hydrolat, on va dire, parce qu'il n'est pas aussi efficace, on est d'accord, que sur un hydrolat qu'on trouve en herboristerie ou chez les professionnels. Mais déjà, avec ça, on peut déjà bien nettoyer la peau, c'est déjà pas mal. C'est un exemple. Donc, on part d'une plante fraîche, là. Donc, la rose, tout le monde le sait, c'est un excellent antiride. C'est apaisant et ça sent bon. On a aussi des macérations huileuses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend, on peut prendre des plantes sèches, des plantes fraîches. Si on les prend fraîches, on les laisse sécher un petit peu pour qu'il n'y ait plus d'humidité sur le végétal. Hein. On les met dans un pot, bien sûr, très très propre. Hein. Et puis, on y met de l'huile. Hein. Alors, quelle huile ? Pas n'importe laquelle, forcément de très bonne qualité. L'huile d'olive ou l'huile ça va me revenir, l'huile d'olive et l'huile de tournesol, parce que c'est quand même des huiles qui résistent au soleil, et on peut les mettre au soleil pendant 3 semaines. Ce sera la seule fois où on utilisera des huiles de cuisine, dites en de cuisine, parce que pour les cosmétiques, on n'utilise que des huiles de cosmétiques, ce n'est pas les mêmes propriétés. Pardon. Une fois que ça s'est fait, au bout de trois semaines, eh bien on filtre, et là on a une base pour faire nos produits cosmétiques, c'est très simple. Hein. On a tout chez nous, hein. On peut faire très très simple. Alors, il y en a beaucoup, hein. C'est des types, c'est les huiles végétales. En fait, si vous voulez, pour être clair, toutes les huiles qu'on utilise, c'est spécifique donc, pour le cosmétique. Donc, ça veut dire qu'il y a, imaginez les différents hémisphères de la planète. L'hémisphère nord, celle du milieu, j'ai un trou, et celle du hémisphère sud. Pardon. Plus on va au nord, plus ça sera des huiles dites sèches. Quand c'est tempéré, comme chez nous, c'est des huiles, on va dire, normales. Et puis celles qui sont aux hémisphères sud, elles sont plus grasses. Donc les types d'huiles, en fait, c'est, pour répondre à votre question, c'est aussi... moi, je les prends, par exemple, en herboristerie. Et ça sera à base... ça sera des fleurs, ça sera des... c'est ça, votre question ? Les fleurs, ça peut être des fleurs, ça peut être des feuilles, ça peut être des fruits, oui. Et c'est vraiment du végétal, hein. C'est uniquement du végétal. Il y a des baies, il y a des fleurs, il y a des feuilles, hein. Il y a des tiges aussi, voilà. Tout ce qui est utilisé en cosmétique naturelle, en tout cas dans les ateliers que je propose, c'est tout issu de la plante, tout. Le plus possible en tout cas, mais principalement. Bon, je vais accélérer un peu. Donc voilà, on y arrive. Donc là, tout à l'heure, je disais des plantes sèches. Là, par exemple, c'est la fleur de mauve. Là, ça aussi, j'ai pris les photos donc, sur l'herboristerie de Poitiers, là, de figuier. Donc là, on trouve des huiles. Moi, je vais me servir très souvent à l'herboristerie parce que c'est de la qualité, que ce soit en huile ou en hydrolat. Il y a aussi des producteurs locaux qui font aussi un excellent travail dans la distillation, dans leur production. J'essaie de favoriser au plus les producteurs locaux. pas une façon de... Donc voilà, je vais très souvent à l'herboristerie du figuier également, parce que c'est de la qualité également. Donc voilà, en atelier, les gens... Bah, en fait, quand on fait, par exemple, des crèmes, la crème que je fais circuler, par exemple, c'est un exemple, justement, eh bien, j'essaye de proposer des... Comment dire, des ingrédients qui seront adaptés aux différents types de peau des personnes. Pareil pour les shampoings, par exemple. Donc, si vous voulez, quand les ateliers sont faits, si une personne a une peau sèche, elle aura une huile pour la peau sèche, et inversement, peau grasse, peau mixte, pareil. Donc là, c'est... j'étais un petit peu vite, quand même. Voilà, c'est des productions, hein, des baumes. En fait, tout ce qu'on peut avoir besoin dans tous les jours, quoi. Ça va du gel douche, du shampoing, du baume, baume à lèvres, baume à main... Et c'est assez facile à faire. Oui ? Oui, il faut faire attention. D'abord, il faut toujours travailler avec des... Enfin, que ça soit très, très propre. Donc, on commence par se laver les mains. On lave tous ses contenants, son matériel, et puis son plan de travail. Et quand on fait, les ateliers, il faut que tout soit très, très propre. Donc, on nettoie tout bien au savon avant. On désinfecte à l'alcool à 70, que tout soit propre. Ensuite, on prend nos matières et on travaille, on réalise le produit. Et pour la conservation, on y met aussi de la vitamine E, qui est antioxydante et qui fait perdurer votre produit assez longtemps. Donc ça veut dire que sur un produit, par exemple, moi j'ai un lait pour le corps, ça fait pratiquement un an que je l'ai, et il se garde bien. Il y a des produits qu'on mettra au frigo, de même qu'il y aura certaines huiles végétales qu'on mettra au frais pour les conserver, pour qu'elles puissent garder leurs propriétés. Mais souvent, ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand on achète une huile végétale cosmétique, elle est neuve, on peut déjà l'ouvrir en arrivant chez soi et mettre quelques gouttes de vitamine E, ça vous permettra de la garder plus longtemps, pour pas qu'il y ait un rancissement. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de shampoings en fonction des plantes qu'on aura utilisées. Là, par exemple, là, c'est une infusion de pétales de rose, hein, pour faire un shampoing. Alors on peut très bien prendre des hydrolats ou faire son infusion Juxellaire. Voilà, les shampoings sont là. Et puis il y a aussi des shampoings solides. Voilà, en utilisant des tensions actifs aussi le plus naturel possible. J'avance. Là on passe à la cuisine. Donc ça tombe bien, on va bientôt passer à table. Donc je vais vous faire un peu saliver. Donc là c'est des exemples de production. Par exemple, là, ce sont des mendiants au chocolat avec la fleur de lilas, par exemple, qui est d'ailleurs très, très bon. Alors là, on peut la prendre fraîche ou séchée. Alors le goût est un peu particulier. Donc là, le but des fleurs, c'est de donner un goût aussi, mais aussi un visuel. Donc là, sur les mendiants au chocolat, c'est simple, hein, de faire fondre du chocolat et puis y mettre après noisettes. Enfin, vous connaissez un peu les mendiants, je ne sais pas. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est très bon. Mais c'est de changer un petit peu le visuel avec des fleurs. Là, ce sont des biscuits à l'aubépine, hein, avec les fleurs, et des amaretti, pour être plus précise. Voilà, c'est des choses qui se font très rapidement et qui étonnent et qui sont sains. Mais ça permet, encore une fois, d'avoir un goût différent sur ce qu'on mange. Donc là, un autre exemple avec des fleurs, il y avait du lilas, il y avait des fleurs de pissenlit, il y avait, il y a plusieurs... Donc voilà, un autre exemple encore de biscuits. La confiture de sénelle, qui est excellente. Les sénelles d'aubépine, ce sont les petites baies rouges, là. Elles sont bourrées de vitamine C, et je peux vous dire qu'en confiture, c'est juste un délice. Les fleurs de sirop qu'on trouve principalement au printemps, pareil, on peut en faire du sirop. Là, j'en ai fait des muffins aussi. Donc ça, c'est tout simple à faire et c'est un goût absolument merveilleux. Là, ce sont les ateliers avec les enfants où on utilisait des graines de souvenirs. Donc c'est la base d'une salade de fruits avec une sauce soja et avec des graines de carottes sauvages, par exemple, qui sont un peu anisées. Là, c'était pour montrer qu'on avait fait une gelée à base de fleurs de lilas. J'accélère. Voilà, ça, c'est tous des exemples de ce qu'on peut faire en atelier. Là, c'est pareil, fleurs, on avait fait une salade de fruits. Là, c'est des pestos. Donc là, c'est plus du salé. Donc là, on part de l'ortie, pourquoi pas, ou la lierre, hein, qui est une plante qu'on trouve au bord de l'eau et qui a un goût d'ail, à lierre. L'huile d'olive, et puis des amandes, et voilà, on brasse tout ça, et on obtient un excellent pesto pour l'apéritif, ça étonne tout le monde, et c'est très bon. Et là, donc, je vous ai mis quelques livres que j'ai, mais pas tous, mais qui sont intéressants. Celui-là, de David Damour, il est vraiment très, très complet pour les peintures, pour les pigments. Teinture naturelle, comment teindre, ça c'est des exemples aussi qu'on peut trouver. Donc ces livres-là, je les ai pris à la Bruyère Vagabonde, hein. Je crois qu'elle doit être dans le couloir. Ah ben elle est là, Véronique, voilà. Pourquoi là-bas? Parce qu'elle est d'excellents conseils. Elle connaît ses ouvrages et ça pour moi c'est important parce qu'on a beaucoup, pas mal d'ouvrages et puis ben, des fois on ne sait pas lesquels prendre et puis ben, elle est là pour nous conseiller. Voilà, pour les fleurs également. Et puis là, pour les cosmétiques, l'essentiel, tout n'est pas là, hein, mais voilà. Et puis, en fait, c'est à vous d'essayer. Il y a des recettes qui existent, mais c'est vous qui essayez. Vous modifiez à votre guise, et voilà. Donc, le but, c'est vraiment de sensibiliser sur nos sens et ce que nous offrent les plantes. Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Marie-Christine qui vous proposera certaines activités. Donc, je vais appeler mes petits collègues. Donc, Laurent Fillon, d'abord, parce qu'il est pressé, Lucie, par rapport au timing, de l'école de l'ADN, qui va vous présenter donc, les ateliers plus particulièrement liés aux plantes que cette année il peut proposer. Et Quentin Mété, donc, animateur à l'espace Mendès France, qui va vous proposer également présenter les ressources, expositions et ateliers qu'on a sélectionnés sur la thématique de cette année. Donc, avant que ça s'installe, deux petites choses. Effectivement, Caroline, c'est ça? Camille, voilà. Camille, leur présentation, d'accord. Autrement, voilà. Donc, comme c'était plutôt les activités Mendès France et École de l'ADN, j'en profitais pour vous montrer donc, un ouvrage que vous retrouverez mentionné dans la bibliographie, qui est donc Les plantes sauvages et leur milieu en Poitou-Charentes. Donc, c'est un ouvrage d'Yves Baron, célèbre enseignant de l'Université de Poitiers. Effectivement, les plantes liées donc, au Poitou-Charentes, qu'on peut acheter aux éditions Atlantique avec Stéphanie à l'espace Mendès France. Voilà. Et nous avons édité des jeux de cartes de cette famille sur les fleurs liées aux plantes, liées aux îles. Donc, île de Ré, île de Léron, enfin voilà, les îles de notre région. Donc, là encore, en vente aux éditions Atlantiques, Espace Mendès France, sur notre site. 5 euros le jeu de cartes. Et je vais vous le faire tourner parce que la personne qui a fait les iconographies des plantes, c'est Thérèse Roduro et son époux. Et elle propose également des activités. Donc, j'ai mis ses coordonnées parce qu'elle a vraiment un talent. Elle m'a montré les peintures gouaches. C'est magnifique. Oui, le jeu de cartes est en vente, mais si vous voulez mettre en place des ateliers, voilà, c'est une ancienne enseignante de dessin, donc elle est prête à faire des choses aussi en collège ou en lycée, à élaborer des projets avec elle. Voilà, et c'est vraiment de très, très belles choses. Voilà, Laurent.
Merci, Christine. Alors, on va faire rapide, parce que je pense que vous avez faim, en fait. Hein. Donc, en quelques diapositives, l'école de l'ADN, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une association hébergé donc à l'espace Mendès France, on est présent au quotidien ici depuis 2006. Donc, je vais vous présenter rapidement la structure, un petit peu les conditions d'intervention, mais Quentin y reviendra. Et puis, on a mis en avant 4 ateliers que vous retrouvez dans la documentation. En deux mots, nous, on propose alors des ateliers scientifiques, techniques, où quelque part, l'idée, c'est que les participants enfilent un peu leur blouse et se glissent à la paillasse. Donc, à chaque fois, on va installer un petit laboratoire dans lequel l'atelier va être proposé. Ces ateliers sur la période là, de la science se livre sont animés par 5 docteurs qui sont alors, issus de l'Université de Poitiers, bien entendu formés à la médiation scientifique. Et au cours de ces ateliers, on va vraiment dérouler un petit parcours expérimental où les participants vont chacun être acteurs, vont faire leurs expériences dans ce petit laboratoire. Je vous ai mis très rapidement, mais c'est détaillé dans le document, les tarifs et conditions. Donc, les frais de déplacement sont pris en charge par la science Solive, ça c'est bien. Il reste En fait, en participation à 85 euros par atelier, on prend des groupes de 12 à 14, 15. Voilà, des fois, on s'adapte un peu, mais on ne peut pas prendre des très grands groupes, pas au-delà d'une quinzaine de personnes, parce qu'on reste sur de la manipulation. Donc, si on ne veut pas perdre, voilà. Et puis, on a donc, au niveau des conditions d'intervention, une petite demande, on intervient pour 2 ateliers minimum. La raison un peu la suivante, c'est qu'on va avoir 3/4 d'heure, 1 heure, parfois plus d'une heure d'installation, 1/2, 3/4 d'heure de rangement. Donc ça cale sur une journée, voilà, le temps de s'installer, de faire les ateliers et de ranger. Sinon, on passe beaucoup de temps à ranger et à faire la route et pas beaucoup à animer. Voilà. Alors on a choisi 4 ateliers alors qui sont aussi bien pour les scolaires et le grand public, aussi bien pour du primaire, collège, lycée, enfants et adultes, parce que les ateliers qui sont ouverts au grand public, c'est vraiment... Enfants, j'insiste un peu parce que souvent ça passe pas toujours. Enfants à partir d'un certain âge et les adultes peuvent aussi venir participer avec les enfants, les parents, les grands-parents. Voilà. Ils peuvent, on essaie de construire les ateliers pour que chacun y trouve de l'information. Alors après, les modalités, de toute façon, ça c'est sur la plateforme, donc Quentin va vous parler. Et puis si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur ces ateliers, il suffit de nous appeler à l'accueil de l'espace Mendès France en demandant Laurence ou Laurent de l'école de l'ADEN. Ou de nous envoyer un petit mail à l'adresse qui est là. Généralement, on répond assez rapidement. Les 4 ateliers proposés, y en a un qui s'appelle ADN élémentaire, mon cher Watson. Alors ça, c'est un atelier qui a été, qui est beaucoup proposé. C'est un des ateliers peut-être qu'on fait le plus en grand public. Le Watson, c'est pas celui auquel on pense forcément. C'est, on va pas mener une petite enquête. Le Watson, quand vous sortez dans le couloir, il est en face, là-bas sur le mur. C'est celui qui a découvert la double hélice d'ADN. Avec Rosalind Franklin et Crick. Voilà. Il y en a donc graines et plantes, je vous en parle un peu de la graine à la plante. Popcorn sélection, alors c'est un atelier qu'on a inscrit à la programmation l'an dernier et qui avait été monté avec le BioGVS et l'INRA il y a un an ou deux. Et puis un atelier qui va tourner autour de l'hortensia qui s'appelle Les gènes n'expliquent pas tout, que je vais vous présenter aussi rapidement. ADN élémentaire, mon cher Watson, alors c'est un atelier d'observation microscopique. Alors toute la première partie, on s'appuie vraiment sur un grand plateau de fruits et légumes. Alors en fonction de la saison, on peut aussi aller chercher des fleurs, observer du pollen et autres. Mais l'idée, c'est de se faire plaisir un peu. Alors derrière, de comprendre que le vivant s'organise autour, les piliers du vivant, cellules et ADN. Donc on parle de ça dans l'atelier. Mais toute la première partie, là, c'est quelque chose que vous avez probablement tous vu, c'est les cellules d'oignon. On débute toujours par ça en 6e, voilà. Et donc, c'est de se faire plaisir. Dans le monde végétal, c'est vrai qu'il y a énormément de cellules différentes qui sont vraiment très, très jolies. Et petite nouveauté cette année, on s'est équipé aussi d'un tout nouveau microscope qui est vraiment très, très bien au niveau observation pour le médiateur, mais qui peut permettre aux participants, en téléchargeant une toute petite appli, d'aller récupérer leurs photos d'observation. Parce que ça, c'est souvent... ils prennent des photos en mettant le téléphone sur l'oculaire ou autre. Donc ça, en scolaire, cycle... Oh, je vais revenir. Cycle 3... Et puis, ça peut se faire en collège aussi. Et puis, en grand public, adulte, donc et des enfants dès 7 ans. Voilà. Donc, ADN élémentaire, mon cher Watson. Celui-ci, de la graine à la plante, quelque part, c'est équipé de grosses loupes binoculaires. On va essayer de comprendre un peu ce qui se passe quand on part de la plante et puis qu'on arrive jusqu'à nos plantules et les besoins de nos plantules. Donc, on va aussi regarder un peu les interactions entre la plantule, la graine et le sol dans lequel la plantule va se développer, puis la vie dans ce sol. On a évoqué un tout petit peu ce matin la vie dans le sol. Et plus, alors là, nous, on l'a plus présenté en scolaire, et peut-être pas forcément en grand public. Et puis, on le fait, c'est vrai, celui-ci, sur des cycles 2-3, et souvent dans des démarches de projet où c'est une école, une structure qui va travailler un peu sur un jardin pédagogique ou autre. Donc ça cale assez bien sur ce type d'approche. Le suivant, Popcorn Sélection, donc scolaire, cycle 3, et puis en grand public, adultes et enfants dès 7 ans. Et le point de départ de cet atelier, c'est qu'on va essayer de faire du popcorn ensemble, mais ça ne va pas fonctionner pour tout le monde. Et là, de fil en aiguille, on va essayer de comprendre pourquoi certains arrivent à faire du popcorn et les voisins non, pourtant ils ont également du maïs. Et l'idée, c'est de comprendre un peu ce que nos maïs à pop-corn ont dans le ventre, et puis d'arriver petit à petit sur le fait qu'au niveau de la sélection des plantes, la plupart de nos plantes cultivées ont été sélectionnées et ne sont pas vraiment originaires de nos contrées. Il y en a beaucoup qui viennent d'Amérique du Sud ou autre. Donc c'est vraiment d'aborder un petit peu cet aspect origine des plantes et sélection, mais en faisant un petit parcours d'expérience sur cette seule variété de maïs qui est capable de donner du pop-corn, qui est la variété Verta, qui va donner du pop-corn. Et le tout dernier qu'on a mis en avant, les gènes n'expliquent pas tout. Alors là, c'est vraiment plus pour des scolaires, cette fois au lycée. Et ça cale vraiment bien sur des premières. Avec cette, ça, vous savez, en première, il y a une nouvelle spécialité, la spécialité SVT. Et quelque part, c'est de comprendre un petit peu les liens. Alors là, ça va rentrer un petit peu plus technique entre les gènes de la plante, le génotype, le phénotype, l'ensemble des caractères qu'on voit et l'intervention de l'environnement par rapport aux caractères qu'on voit. En fait, on va réaliser, alors là, on est sur l'atelier lycée vraiment plus technique, on va faire des petits profils génétiques de différents hortensias qui notamment ont différentes couleurs. Et se rendre compte que la couleur, elle n'est pas du tout, mais ça, je pense que si vous jardinez un peu, liée donc, aux gènes, mais en fait, elle est liée à l'environnement et notamment à l'acidité des sols hein, dans lesquels ces hortensias. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'en fait, les lycéens partent tout le temps voilà, sur la couleur va être liée aux gènes, un peu comme la couleur de nos yeux, mais en réalité, et même face au résultat, des fois, ils maintiennent que c'est. Voilà, que ce n'est pas l'environnement, mais il y en a toujours un qui a jardiné un peu. Voilà. Donc ça, plus, ça peut être proposé hein, vraiment sur le secondaire. Voilà, s'il y a des questions, des petites précisions, je peux y répondre. Et puis, vous pouvez aussi nous appeler, hein, je vous dis, en demandant Laurent ou Laurence de l'école de l'ADEN. Je ne sais pas, il y a des questions ou des précisions. Je n'ai pas mis les durées, mais vous les avez, en fait, dans le petit document. En gros, à part celui-ci qui dure 2 heures, les autres, c'est généralement 1h15, 1h30. Voilà. Je passe la parole à Quentin. Merci.
Alors bonjour tout le monde. Donc Quentin Mettet, je suis animateur ici à l'Espace Mendès France et je vais aussi essayer d'être concis et surtout très pratique pour essayer de vous expliquer comment vous allez pouvoir réserver les expositions qu'on va vous présenter et les ateliers aussi qu'on vous présente dans le cadre de la science solide. Alors j'ai juste besoin de me connecter à Internet. Alors j'imagine qu'on vous a tous remis ce document. Alors dans ce document, vous allez retrouver une quinzaine d'expositions en lien avec le thème de la science solide de cette année. Donc ces 15 expositions vous sont prêtés à titre gratuit par l'Espace Mendès France. Et vous allez retrouver du coup dans ce document un résumé du contenu et quelques informations pratiques. Alors, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'Espace Mendès France pour retourner sur les fiches de chacune des expositions parce qu'on va y retrouver du contenu en plus et surtout des informations pratiques en plus qui vont vous intéresser pour la réservation des expositions. Donc vous vous connectez sur emf.fr. Vous allez dans ressources, exposition itinérante. On va prendre un petit exemple. Alors, là, vous avez tout le catalogue des expositions, mais il n'y en a qu'une quinzaine qui vont nous intéresser dans le cadre de la science ce livre. On va regarder, allez, espace et espèce. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur le site, c'est que vous allez, en plus de retrouver les informations pratiques liées au système d'accroche, à la taille des panneaux et au nombre des panneaux, vous allez retrouver des visuels de chacun des panneaux. Donc, ça peut être intéressant pour se faire une idée de ce qu'on peut présenter à son public. On va retrouver un résumé du contenu, le nom de chacun des panneaux, etc. Alors, bon, pour ce qui est du tarif, ça ne vous intéresse pas, puisque ce sont des expositions qui sont prêtées par l'Espace Mendès France. Par contre, ce qui va vous intéresser, ça va être le planning qu'on retrouve tout en bas de l'affiche. Alors, vous voyez que là, c'est complètement inaccessible ce mois-ci, et il y a une raison bien précise, c'est que cette exposition est en ce moment même visible à l'Espace Mendès France. Donc, il y a 3 expositions qui sont proposées dans cette liste, qui sont en ce moment visibles à l'Espace Mendès France. Donc je vous en parlerai tout de suite après. Donc vous regardez et vous pouvez voir du coup qu'il y a des créneaux qui sont pleins en rouge et des créneaux libres. Alors on va essayer de satisfaire chacune de vos demandes. C'est pour ça qu'on vous demandera de faire plusieurs vœux sur vos dates, sur vos souhaits. L'objectif c'est que vous puissiez avoir accès à toutes les expositions qu'on vous propose. Donc, vous faites un ou deux vœux Et vous rentrez ça sur Zoho. Du coup, c'est, tu en as parlé de Zoho ? On en parlera plus tard, si on a le temps. C'est la plateforme sur laquelle vous pourrez soumettre vos projets dans le cadre de la science livre. Alors, concernant les expositions que vous pouvez voir dès maintenant à l'espace Mendès France et que vous pourrez réserver, on a ici au moins un. Dans la salle InfoSciences, vous allez pouvoir voir l'exposition, celle-ci, Espace et espèces. Donc là, pendant la pause méridienne, je vous encourage à aller faire un petit tour pour vous rendre compte du contenu. La cafétéria, là où vous allez déjeuner, il y a l'exposition Les plantes et leurs usages. C'est une nouvelle exposition. Et en haut, dans une nouvelle salle qu'on appelle la cabane, vous allez pouvoir voir une exposition qui est aussi récente et qui est très intéressante, puisqu'on y retrouve un contenu augmenté. Donc il y a un boîtier qui est fourni avec l'exposition. C'est comme un boîtier Wi-Fi. Vous allez vous connecter avec votre téléphone ou votre tablette. Il y a toutes les consignes à l'entrée de l'exposition. Et en fait, ça nous permet d'avoir un contenu augmenté, donc un audio guide, notamment un petit peu comme au musée, des vidéos et des images en plus de chaque panneau. Donc il y a du contenu pour chaque panneau en plus. Alors voici, sur les expositions, est-ce que vous avez des questions pour le moment ? Non ? Alors, je vais vous présenter les quatre ateliers que nous vous proposons dans le cadre de la science ce livre. Hop, je vais rester sur la même page. Alors, un peu plus loin dans le document que vous a transmis, il y a les animations scientifiques. Alors, on a sélectionné quatre ateliers. Et ces quatre ateliers nous permettent de couvrir à peu près tous les âges, de la toute petite section jusqu'à la fin du collège. Alors, à titre d'information, vous verrez qu'on a mis des publics différents sur chacune des animations, mais avec l'expérience, je vais pouvoir vous faire quelques petits conseils quand même, parce qu'il y a des animations qui sont quand même plus prévues pour un type de public que d'autres. Donc, je vais vous montrer un petit visuel. Alors, dans ressources, c'est pareil, vous pourrez consulter les fiches sur le site internet. On va regarder le premier atelier pour les plus petits, donc à partir des tout petites sections jusqu'aux grandes sections. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour cet atelier, c'est l'atelier chimie des couleurs. Alors un petit peu à l'image de ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, on va faire de la couleur avec un légume. Et ce légume, c'est le chou rouge. Donc le chou rouge, on va le faire cuire. Et avec cette infusion, on va fabriquer des couleurs en le mélangeant avec des bases ou des acides. Donc il y a comme objectif principal de comprendre qu'avec deux produits différents, si on les mélange, on peut obtenir une nouvelle chose. Et puis aussi de comprendre qu'on peut faire des couleurs avec des végétaux. Alors à l'issue de cet atelier, une fois qu'on aura fabriqué plusieurs, que les enfants auront fabriqué plusieurs couleurs, ils vont pouvoir faire de la peinture et peindre des légumes avec le fruit de leur travail. Alors comme ce que vous a dit tout à l'heure mon collègue, on prend en charge les frais de transport, mais on va avoir des tarifs différents en fonction des ateliers, parce qu'il y a des ateliers qui demandent plus de préparation ou plus de matériel que d'autres. Donc vous voyez là, pour 16 enfants, sur cet atelier-là, on a un forfait de 75 €. Et ensuite, on peut aller jusqu'à 20 enfants. Alors, pas celui-ci. Celui-ci, on peut le faire en classe entière. Donc classe entière, entendez, pas plus de 30. Mais on est sur 2 € par enfant supplémentaire au-delà du forfait de 16 enfants. Ensuite, je vous présente le deuxième atelier. Ça va être un atelier que vous connaissez peut-être si vous êtes avec nous depuis très longtemps. C'est l'atelier « Petite graine deviendra verte ». Alors, l'objectif principal de cet atelier, c'est de comprendre le processus de germination et aussi de comprendre le cycle graines, plantes, fruits, enfin fleurs et fruits, et puis de nouveau graines, plantes, fleurs, fruits. Alors, à l'issue de cet atelier, après qu'on ait apporté un petit peu de contenu scientifique, les enfants vont devoir fabriquer un bonhomme patate comme ceci, dans lequel ils vont avoir mis quelques graines de pelouse, de ces graminées, et ensuite ils vont pouvoir faire des coupes de cheveux à leur bonhomme une fois qu'ils vont arroser. Hop, au niveau du prix, vous pourrez consulter tout ça. Oh, on est sur le même prix que tout à l'heure. Alors, ensuite, on a un atelier, vous verrez qu'il est prévu dès la petite section de maternelle. C'est l'atelier une baguette, s'il vous plaît. Donc, on va fabriquer du pain. Et auparavant, on va se demander comment on fabrique du pain, avec quels ingrédients, d'où vient la farine, pourquoi il y a du pain qui est aéré, du pain qui peut être plus compact. Et ensuite, donc, on fabrique du pain. Alors, aspect pratique, on demande aux participants d'amener une petite boîte parce que, bien entendu, on ne fera pas cuire le pain à la médiathèque ou à la bibliothèque, mais ils devront faire cuire le pain chez eux. Alors, comme je vous disais, on le prévoit à partir de la maternelle, mais l'expérience m'oblige à vous dire que des petites sections, des moyennes sections, même des grandes sections qui ont de la pâte très très collante au bout des doigts, ils en ont marre très très vite. Et pourtant, cette pâte-là, elle reste collante pendant 5 bonnes minutes. Et on s'aperçoit que très rapidement, ils en ont marre et ils veulent arrêter. Et on se retrouve avec des pâtons minuscules. Donc moi, je préfère le proposer à partir du CPE, à partir de 5-6 ans, cet atelier. Et on arrive au dernier atelier. Donc le dernier atelier, il est plutôt à destination des collégiens, mais on peut le proposer à partir des CM. C'est un atelier de classification phylogénétique. Donc, il s'appelle l'arbre de la vie. Alors, au cours d'une phase de discussion, on va se demander qu'est-ce qu'un être vivant, qu'est-ce qu'un animal, qu'est-ce qu'un végétal, et surtout, comment est-ce qu'on peut classer ces différentes espèces. Donc, on arrivera sur la notion de groupe emboîté. On ne construit pas des arbres phylogénétiques, c'est beaucoup trop complexe dans un premier temps, mais l'objectif, c'est d'y arriver à cette notion d'arbre phylogénétique. Donc on commence en regardant les espèces, en regardant les différents attributs anatomiques, et on essaye de faire des groupes, des boîtes. Et donc voilà, j'ai terminé ma petite présentation des ateliers. Est-ce que vous avez des questions sur les ateliers ou les expositions ? Oui.
Est-ce que c'est important si les groupes d'âge sont mélangés ou est-ce que vous préférez partir sur un groupe ?
Alors ça va dépendre de... On me demandait si c'était, on pouvait faire des groupes mixtes en termes d'âge. Ça va dépendre des ateliers. Vous pensiez auxquels ? Alors, en général, c'est mieux de ne pas dépasser de 3 ans d'écart dans la fourchette des âges. De toute façon, par exemple, pour cet atelier-là, ça va être compliqué de le proposer pour des enfants en dessous des classes de CM. Après, pour l'atelier sur le pain, si vous voulez qu'il y ait des enfants très jeunes qui y participent, ça peut être intéressant qu'il y ait le grand frère ou la grande sœur, et vu que je vous ai dit qu'ils avaient du mal un petit peu avec cet aspect collant de la pâte, donc en tutorat, c'est bien s'il y a un adulte à côté ou plutôt un grand frère ou une grande sœur. D'autres questions ?
Je peux apporter juste une petite précision sur l'âge. Quand nous, on met à partir de 7 ans, et je sais que les hôtesses, là, ont beaucoup de mal, on a toujours des parents qui appellent en disant « Oui, il a 5 ans, 6 ans, et voilà. » Mais vraiment, nous, on peut prendre des groupes mélangés, mais le « à partir de 7 ans », c'est vraiment 7 ans, quoi. Parce que quand on se retrouve avec plein de 6 ans ou de 5 ans, voilà, c'est ni bien pour l'animateur, ni pour le groupe, ni pour le gamin, finalement.
Donc, merci à Quentin et à Laurent. Donc, quelques précisions. Donc, effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas la manifestation La Science Libre, qui ne sont pas encore inscrits, participer, à partir de lundi, normalement, en allant sur le site de l'espace Mendès France et en allant dans la rubrique événements La Science Libre, il y aura une fiche pour Science Libre de Villemain. 2020, pardon, où vous pourrez vous inscrire, c'est-à-dire que vous ouvrez, vous rentrez vos coordonnées et vous sélectionnez donc les expos que vous souhaitez, les animations que vous souhaitez. Donc quand c'est Mendès France, c'est relativement simple, voilà. Mais si vous voulez faire d'autres activités qui ne sont pas dans le listing menu, c'est possible, il y a autre. Donc vous rentrez, vous avez un contact personnel autour de vous, que voilà, donc n'hésitez pas. Et puis donc les inscriptions sont jusqu'au 8 novembre. Et après, donc, je ramasse les copies pour pouvoir établir le programme que vous connaissez tous, qui est diffusé à partir du mois de janvier. Voilà, par rapport au fonctionnement. Un complément aussi, donc, il y a une bibliographie donc, qui a été réalisée, que vous trouvez dans vos dossiers. Donc, l'espace Mendès France, dans le cadre de la Science Livre, vous permet de faire l'acquisition de quelques ouvrages scientifiques sur le thème, bien sûr, des végétaux ou des plantes. Et donc, lorsque vous vous inscrivez, vous demandez un montant, ça va de 50 à 300 euros. Et il faut attendre le mois de décembre, où là, où vous recevrez un courrier par mail en vous disant, voilà, dans le cadre de ce livre, suite à votre demande, on vous attribue telle somme. Et après, avec la somme donc, que vous aurez eue, vous pouvez acheter des ouvrages pour votre fonds dans l'OCDI ou dans la bibliothèque. Voilà, et ça, donc... en demandant de voyer, enfin, je donnerai les consignes, la facture directement envoyée à l'espace Mendès France. Par rapport à l'aspect financier, donc on a parlé des animations, des expositions, donc également pour les conférences, c'est l'espace Mendès France qui prend en charge les frais de déplacement. Donc frais de déplacement des animateurs sont pris en charge par l'espace Mendès France. Après, il y a des tarifs pour les ateliers et pour donc les conférences, c'est la même chose. Et cette année, donc, on innove, je donne la bonne nouvelle aussi aux différents intervenants extérieurs à l'espace Mendès France, donc Marie-Christine Legendre ou d'autres personnes, vous verrez dans le document ressources, les frais de déplacement de l'intervenant sont pris en charge par l'espace Mendès France. Donc après, il n'y aura que le coût à voir directement avec l'intervenant, en fonction du nombre d'ateliers, tout ça. Parmi les conférenciers, donc, il y a beaucoup de conférences qui ont été présentées ce matin, mais il y a également des choses sur le thème de la forêt, avec Alain Persuit, que certains doivent connaître, également le Centre régional de la propriété forestière. Et là, il y a des propositions de conférences ou de sorties. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vais laisser la parole à Camille.
Moi, c'est ouais, voilà, j'ai tout bien compris. Juste avant d'aller manger, c'était juste que pour que vous puissiez m'identifier si vous aviez besoin, parce que je me suis rajoutée au programme. C'est le petit carnet Mélusine, enfin carnet, la petite affiche. C'est juste pour vous dire ce que je fais, parce que c'est assez spécifique. Je travaille juste autour de thématiques, c'est plus de l'ethnobotanique et donc de la relation de la culture et les plantes. Et donc c'est plus à travers soit ça va être les grands remèdes et les grands médecins de l'époque ou les empoisonneurs de l'histoire à partir des plantes toxiques, où je propose ça soit en salle, donc pour les bibliothèques et les CDI, le but c'est de valoriser les ouvrages que vous détenez, donc du coup ça devient un peu comme une petite conférence documentée à partir des ouvrages que vous vous disposez, dont vous vous disposez, et moi j'en amène aussi, mais c'est plus pour amener votre public à découvrir vos ouvrages. Et ensuite, sous forme de balade, donc balade thématique, par exemple, sur les plantes toxiques, où on raconte à travers un fil directeur. Le but étant d'avoir un fil directeur pour guider les interventions, que ce soit aussi dans la constitution d'exposition, ou aussi, du coup, tout comme Marie-Christine, des petites feuilles frappées, les petits trucs comme ça. Le but n'est pas, du coup, de faire les feuilles frappées, c'est de faire un herbier, par exemple, donc un tableau herbier de la biodiversité de votre lieu. Voilà, donc soit suite à une balade, soit suite à une animation, à une conférence. Et là-dessus, il y a aussi le fait en scientifique, mes activités, c'est pas en dessous de 7 ans, pareil, pour les mêmes raisons et pour que ce soit plus homogène. Et typiquement, sur les feuilles frappées, je fais des recherches sur des réactifs en sciences et vie, c'est-à-dire que typiquement, ça va réagir, on a surtout le sulfate de fer qui réagit au tanin, et le but dans des ateliers à destination plus de lycéens, c'est de voir quel autre réactif pourrait faire, on pourrait faire réagir la carotène ou autre pour découvrir les composants des plantes. Voilà, je vous laisse tranquille.
Merci beaucoup. Voilà. Donc Camille sera présente au repas, donc vous pourrez échanger aussi avec elle. Donc on se retrouve normalement à 1h30, si le temps est court. Donc pour ceux qui ne restent pas manger, ben voilà. Et puis ben, profitez pour découvrir la belle présentation des ouvrages de la bibliothèque, là, juste à la sortie. L'expo donc à votre gauche, espace espèce. L'expo à la cafette. Et montez un étage. Franchement, l'expo avec les portables, ça avait le temps. C'est très très sympa. Voilà. À bientôt. Vous revenez dans la même salle, donc vous pouvez laisser, on va fermer à clé, donc voilà, mais...